Salut tout le monde, ici Pierre-Benoît Rivard, bienvenue à un autre épisode du Corps et de Sable. J'avais envie de mettre en contexte l'épisode de cette semaine pour les gens qui vont l'écouter et qui se demandent « Mais qui est Michel Bourdon? Qu'est-ce que le ranch au Boiron? » Le ranch au Boiron, c'est le ranch de Michel, en fait, ok? Je vais partir de même, là. Et si elle dit tout de suite, c'est pas un épisode commandité, c'est pas une pub qu'on m'a payé pour aller faire, rien de tout ça. C'est moi qui ai demandé à Michel, est-ce que ça te tenterait de faire un podcast? Je vais m'en venir chez vous, il habite à Saint-Côme. J'ai fait une heure et demie de char aller-retour pour aller tourner ce podcast-là avec Frédéric Daou de Production 37, qui est un de mes bons amis qui m'aide avec la caméra et tout ça. Et à chaque fois que j'ai des problèmes de cam ou d'audio, Fred est là pour moi et pour vous, amateurs du carré de sable. Et là, il est venu avec moi, on est allé filmer ça. Michel Bourdon, c'est un homme que j'aime beaucoup, que j'ai rencontré, je fais ça rapidement, là, il y a une douzaine d'années, je faisais un show dans un bar. Il est venu me voir après pour me dire c'était bien bon, j'étais à Joliette, dans le coin de Joliette, Saint-Côme. Et je me suis lié d'amitié avec ce gars-là parce que j'ai juste découvert un gars sensible, gentil, juste qui veut aider. Il a organisé un concours d'humour à un moment donné, puis j'ai participé avec plein de collègues humoristes à ça. C'est qui le comique? T'as peut-être déjà entendu une anecdote de chauffer éclairé à Mike Ward sous écoute qui parlait d'un concours d'humour. Ben, c'était là. C'est ce concours-là dans lequel j'avais gagné. Genre, c'était marqué 1000$ en prix, mais c'était comme 250$ cash puis 750$ de coupons rabais dans la région là-bas. Ce que j'ai découvert en prenant mon prix. Fait que j'ai juste jamais utilisé aucun de ces coupons-là. Mais Michel est un gars que j'aime beaucoup. Il y a un ranch sur lequel il fait évidemment de l'équitation. Il y a des chevaux, il fait des camps d'équitation. C'est un gars qui s'implique, qui fait du théâtre. C'est un gars vraiment juste que j'avais envie de vous présenter parce que je l'aime beaucoup. Puis, pour moi, c'est ça le carré de sable. C'est une espèce de... Oui, je reçois des scientifiques, je reçois des humoristes, mais j'ai toujours aussi voulu vous présenter des humains qui m'inspirent, moi. Puis Michel en est un. Il a toujours été présent dans ma vie, de loin ou de proche. On peut passer un bon bout sans se parler, mais on est toujours pas loin. Puis, c'est un gars que je respecte énormément, donc j'avais envie de le mettre en valeur et de vous le présenter en allant à Saint-Côme pour avoir une discussion avec lui. Fait que c'est un épisode un peu différent de ce que je fais d'habitude, mais... Je suis bien content de l'avoir fait, donc j'espère que vous allez avoir du fun à l'écouter. Sur ce, bon épisode tout le monde. Salut!
Puis moi, j'écris beaucoup de théâtre, puis quand je parle des personnages, puis des fois, je dis « Ah, oh, Miguel, il devrait faire ci », mais c'est parce que le personnage de Miguel, c'est moi qui l'incarne en plus, tu sais.
Tu le connais, tu sais pourquoi je il connais comme ça, tu sais.
C'est pas un mauvais gars, mais Colin, il est spécial.
J'aime ça que tu... ça, j'ai vraiment l'impression que tu parles de quelqu'un d'autre, c'est merveilleux.
En fait, oui, quand tu parles de tes personnages, mais toi, c'est parce que quand tu fais ton stand-up, toi, c'est toi-même. C'est moi, tu racontes des affaires de toi. Ouais. T'es moins important à faire ça, mais quand tu écris du théâtre, tu parles de plein de personnages, parce que tu as 4, 5, 6, 7, 8 personnages, donc ils sont tous à la troisième personne, ouais. Tu sais.
Mais je le vis en écriture TV ou en écriture de personnages, j'écris aussi beaucoup des sketchs, des trucs comme ça, fait que je vis la même chose, mais toi c'est pour la scène, moi c'est pour l'écran, dans le fond. Mais le même principe de te mettre, de te transposer dans la tête de quelqu'un, mais vu que je les interprète pas tous, là t'as accès à des personnages féminins, fait que c'est ça que ça devient bien le fun, parce que tu veux vraiment absorber tout ce que tu croises, tous les gens que tu croises, tu vas absorber des petites affaires qui fait que ça va être plus réaliste quand je vais pouvoir écrire pour une... Tu sais, je retiens les discussions de deux filles qui jasent de Q-Tex, mettons, mais je retiens des détails, des affaires de même, parce que si j'ai comme une discussion de Q-Tex à écrire, je veux qu'elle soit réaliste, je veux qu'une
fille... Quand tu vas l'écrire, ben, tu vas l'écrire automatiquement à la troisième personne, parce que là, tu vas le vivre comme ça.
Exactement.
C'est ça. Quand je parle de M. Henri, c'est un personnage, puis même les gens qui m'entourent, « Ah, ça le fun qu'un tel revienne », tu sais, mais ils parlent d'un personnage que je fais, fait que c'est cool.
C'est ça que j'aime de... Je vais le qualifier comme un tripper, puis après ça...
ben oui,
on va faire le vrai CV au complet. Mais c'est ce que j'aime, c'est que... Ultimement, c'est que tu finis par bâtir un univers à toi, puis ça devient ton univers avec tes personnages. Puis tu sais, j'ai plein de chums en humour aussi qui font la même chose. Les Picbois ont ça. Les Picbois, ils ont plein de personnages, puis ça devient comme l'univers des Picbois qui fait que tu t'attaches à... Puis ça vient avec eux. C'est comme une partie d'eux qui se transpose, qui sort, qui s'exprime de différentes façons. Puis ça devient ça que tu suis. Puis c'est le fun quand tu crées ça, pour moi, il y a quelque chose de bien vivant là-dedans. Puis ça a rapport aussi avec toute la scène ici que tu as créée. Puis,
mais en fait, c'est pas un hasard si on se retrouve ici aujourd'hui, puis qui est une ancienne écurie transformée en salle de spectacle. Hey, une anecdote comme ça.
Vas-y.
La première fois, on construit l'écurie. On construit l'écurie. Et puis, Sophie se prépare à rentrer avec le premier cheval. Et juste avant, je dis à elle, je regarde la place, je dis, hey, ça fait une belle petite salle de spectacle, ça ici. Et ça part de là.
Ah ouais.
Ben, quand j'avais 8, 9, 10 ans, je voulais faire du spectacle. Moi, je voulais faire de la mise en scène. J'en faisais déjà. Mais, tu sais, avec les cousins, cousines, les frères, les sœurs.
Dans le sous-sol à Noël.
Oui, wow, c'est ça. Puis, tous les week-ends, tout était prétexte à faire du spectacle. Puis après ça, mais quand je suis arrivé ici, et là, ça a fait ça, ça a fait le feeling, c'était comme, oh, ça ferait une belle petite salle de spectacle, ça. Finalement, bon, on a fait des entre-deux, puis on a rentré des chevaux, on a fait des box, on a rentré des chevaux.
Puis là, aujourd'hui, c'est une belle salle de spectacle. Là.
Puis là, finalement, on s'est rendu compte que les chevaux, eux autres, là, au naturel, un cheval, c'est dehors que ça va.
OK.
Fait qu'un bon abri, qu'il soit à l'abri du vent, puis à l'abri de la pluie, du foin à volonté, de l'eau à volonté, puis bien de l'amour, puis ton cheval, il est heureux dehors. Fait que là, on récupérait la salle. Puis étant donné qu'on fait des camps d'équitation, ben je dis, on va faire une petite scène pour que les jeunes puissent faire du théâtre, qu'ils puissent faire de l'impro, ces choses-là.
Une présentation de fin de camp pour les parents.
Exactement. Et... Finalement, ben, qui c'est qui était sur la scène? Ben oui.
Mais
j'avais fait la scène à l'intérieur. Puis là, je trouvais que ça rapetissait l'espace, fait que... Bon, je dois faire un petit agrandissement juste pour la scène. Fait que là, on s'est fait un vrai petit théâtre, tu sais.
OK, parce que moi, j'ai connu juste cette version-là. Mais je vais mettre en contexte les gens où est-ce
qu'on
est.
Oui, ben oui. Hey, bonjour.
C'est commencé, anyways. Michel Bourdon.
Hey, salut, PB.
Comment ça va?
Ça va bien, moi.
Très content. Très content de faire cet épisode-là. Je vais mettre les gens en contexte de pourquoi on se connaît, d'où ça part, pourquoi, où est-ce qu'on est. On est à Val-Saint-Côme?
Ici, on est à Saint-Côme.
OK, je sais jamais comment...
Val-Saint-Côme, c'est après le village, c'est là où il y a la pente de ski.
OK, fait que ça veut dire que c'est Saint-Côme.
Ici, on est à Saint-Côme.
Donc, Ranch au Boiron.
Ranch au Boiron.
Nous, on se connaît parce que il y a peut-être une douzaine d'années, j'ai fait un numéro dans un bar à Joliette,
ouais.
Le César à Joliette ou le Rhino.
Oui, c'est le César.
Un des deux, je pense qu'il était collé à côté de l'autre.
Ça a changé de nom après.
C'est ça, les bars, ouais. On retourne faire des shows, mais
c'est la même place.
C'est la même place avec un nouveau proprio. Là. Et là, je fais un numéro sur le fait que j'ai arrêté de boire de l'alcool. À ce moment-là, ça fait peut-être même pas 6 mois que j'ai arrêté de boire. Je rode ça, je débarque de scène, je commence en humour. Là. Je m'en vais fumer une cigarette dehors à l'entracte. Tu viens me parler, puis là, je fais « Ouais, puis je sais pas trop, allô. » Puis là, tu me dis « Ah, je t'écoutais, puis là, je suis OK. » Puis finalement, tu me parles de ta sobriété à toi. Tu me dis « Ça fait, à ce moment-là, je pense 20 ans, quelque chose comme ça. » Puis on a connecté là-dessus, puis moi, t'avais été super fin, tu m'avais parlé de ça, puis moi, j'avais personne à qui vraiment jaser de ces trucs-là. Fait que tu m'avais dit « Écoute, tu as besoin de juste en jaser, de si tu trouves ça rochant ou tu trouves ça trop dur. »
Je jouais déjà les parrains.
Tu vois, mais c'est ça, t'étais ce gars-là.
Mère Teresa.
Oui, mais bien fait, justement. Puis ça m'a beaucoup touché, parce que je me rappelle que j'étais appelé à m'amener à travers les années. Ouais. Une fois, je pense, pour faire comme « OK, là, je sais pas comment ça marche, quoi faire », puis tu m'avais calmé, puis j'avais beaucoup apprécié. Puis on est devenu amis avec le temps. Et par la suite, t'as organisé un concours d'humour.
Hey!
C'est qui le comique?
C'est qui le comique?
Ça, j'en entends. Avec les sauts de mousse qui étaient là à l'époque, c'était-tu leur nom, les sauts de mousse?
Il y avait Marco Métivier qui était là. Dave Morgan.
Gabriel Caron était-tu dans le concours?
Oui, Gabriel était là, oui. Oui, Gabriel Caron.
Qui d'autre? Je me rappelle qu'Antoine Bertrand était juge.
Il était parrain. Il était
parrain du truc, c'est ça?
Il était parrain du concours.
Puis, donc, on a fait le concours et suite au concours, j'avais gagné, en fait, il y avait plein de coupons.
Plein de forfaits qui étaient offerts.
Exactement. D'ailleurs, j'ai comme 90% que j'ai jamais utilisé parce que c'était dans le coin ici.
C'est non remboursable.
Oh, je sais. Je sais, je les ai toutes regardées. J'ai toutes regardées expirer. J'étais comme, non! Mais il y avait une randonnée. Équestre, ici
oui.
Même.
Oui, oui.
Et j'étais venu avec Corinne Côté parce que j'étais supposé venir avec ma blonde, mais on s'était laissé. Fait que j'avais appelé Corinne pour faire « Hey, veux-tu être ma bouche-trou d'initiation? »
Ma bouche-trou.
Oh, elle était bien contente. Ouais. Fait qu'on était venu faire ça.
Elle était montée sur Bellini, je me souviens, écoute, je revois encore la photo. Elle était montée sur une jument arabe Morgan.
OK.
Puis qui a bien mauvais caractère. presque autant que Corinne, d'ailleurs.
Corinne, c'est-tu quelqu'un qui a pas mauvais caractère?
Non. C'est bien elle. Puis, non, puis elle avait connecté ces deux-là, là, elle voulait plus débarquer. Moi, je me souviens, c'était vraiment cool.
Ben, moi, c'est là que j'ai vraiment saisi encore plus qui t'étais. C'est à ce moment-là, quand je suis venu, puis je t'ai vu avec les chevaux, puis tu me parlais du projet de la salle qui n'existait pas encore à ce moment-là. C'était encore l'écurie. Puis... l'expérience que j'avais eue avec le cheval aussi qui m'avait fait allumer sur quelque chose de super important dans ma vie qu'on en reparlera tantôt.
C'est,
vrai,
ça, c'est quelque chose qui t'a suivi par la suite.
Ben oui, absolument. C'est pour ça que quand je t'en ai reparlé, je trouvais ça le fun de venir ici puis de mettre en valeur tout ce que tu fais parce que je suis venu faire mon show dans ta salle que tu as finalement construit. Je suis venu faire un rodage du show ici puis là, je vois qu'il y a d'autres shows du monde. Il y a Maud Landry, il y a Guillaume Pinot qui vont venir ici. Fait que je trouve ça le fun que ça devienne une salle où les gens venaient. Et c'est une salle sans alcool. Et là, c'est le lien avec la sobriété, c'est que je ne me trompe pas, la première salle sans alcool officielle
tout
au Québec.
Tout à fait, ouais. qui est répertoriée. Là, si tu regardes la salle de spectacle sans alcool au Québec, on est tout seul.
Puis c'est mais tellement le fun.
On était tout seul. Je dois dire qu'au début de l'été, il y a deux ou trois endroits à Montréal qui ont décidé de suivre, d'emboîter le pas.
OK, parce que je sais qu'il y avait un bar, le sel, le poivre et sel, ou c'est pas, ou je sais pas trop, c'est dans ce coin-là, là, Masson puis Iberville, que je sais qu'il y a un bar sans alcool pour les gens qui, justement, sont peut-être trop, ils veulent pas être exposés à de l'alcool, ils veulent pouvoir sortir sans avoir la pression de j'ai envie de boire et tout ça.
Il y a ça, et en fait, il y a beaucoup de raisons. Puis j'ai pas, on n'a pas voulu faire sans alcool parce que j'en consommais pas, ça n'a aucun rapport.
Okay,
parce qu'après avoir arrêté de consommer, j'ai toujours travaillé dans les bars. Moi, je suis musicien, chanteur. Ben oui. Et puis, j'ai fait des bars.
On va faire ton CV, justement, pour expliquer d'où tout arrive après ça.
Mais l'idée, c'était qu'on a fait des spectacles dans la salle ici pour faire des levées de fonds et tout ça. Et j'ai vu l'état du monde quand il était le temps de repartir. Puis, il y en a que j'ai pas voulu laisser repartir avec leur auto.
Ah! Parce que, veux pas, faut le dire, comment que c'est disposé. On est sur ton ranch, là.
Là, on est en plein milieu du ranch. On est entouré de chevaux.
Ouais.
Puis les gens, quand ils viennent, ils ont pas le choix. On est à Saint-Côme, là.
Ouais.
Ouais, qu'on est dans le bois, là. Et il y avait des gens qui avaient dépassé la limite de 0.013. Ouais. De 0.013. Les zéros, d'autres, ils ont mis en arrière.
Okay.
Et ça faisait en sorte, non, tu peux pas. Fait que là, ça faisait... Puis, et à un moment donné, quelqu'un m'a proposé m'a dit, tu devrais faire une salle de spectacle. J'ai dit, ouais, ça a du sens. Il dit, moi, je veux faire le premier spectacle dans ta salle. C'est Jocelyn Bigra, qui est un bon ami. Puis, je dis, OK, parfait, on fait ça.
Mais là, est-ce que tu avais un doute par rapport à.
Et là, j'ai commencé à imaginer les fins de soirée. Ça faisait non. Non, j'ai pas envie d'aller conduire du monde après les soirées. Puis il était inquiet, j'aurais peut-être pas dû y vendre une bière. Puis ça fait, OK, on le fait, mais sans alcool.
OK.
Fait que là, tout le monde a dit, écoute, t'es à Saint-Côme. C'est les gens qui sont très, très de party. Mm-hmm. Et la boisson, écoute, ça va
aide
souvent
au party.
Ben oui, souvent, souvent. Ils ont dit, tu vas te casser la gueule. Ben, on verra. Okay. Et finalement, ça fonctionne. Et on fait des drinks santé. Mm-hmm. On a des bières sans alcool. Puis il y en a que je mettrais une bière sans alcool puis une vraie. Puis à toi de me dire laquelle qui en a pas puis laquelle qui en a. Là, ouais, là.
Je vais te le dire après 6.
C'est sûr.
Je peux pas te le dire après une gorgée.
Fait que, donc, les gens sont pas pénalisés. Puis si jamais il y a des gens qui disent, ben moi, je veux pas y aller dans une salle sans alcool parce que, hey, 2 heures de temps sans boire.
Ben...
OK, parfait. Si tu me réponds ça, tu réponds à la question que tu devrais te poser.
Ouais.
Alors moi j'ai pas de... Alors ça fait un filtre naturel en même temps. Parce que ce qu'on veut, c'est que quand il embarque quelqu'un sur scène, que les gens l'écoutent.
Ouais.
Et souvent, c'est pas pour mal faire, souvent quand t'as pris 3, 4, 5 bières, tu veux voler le show. Et dans des petites salles, c'est pas long qu'on t'entende partout.
L'intimité fait ça. L'intimité fait que... l'avantage, c'est justement que quand t'as une connexion, c'est super fort, puis ça fait des shows qui sont vraiment magiques, mais... quand quelqu'un n'a pas besoin de faire grand-chose pour déranger puis que tout le monde l'entende aussi.
T'sais. Exact.
Fait que sur scène, tu as cette sensibilité-là qui fait que tu peux vraiment donner le show que tu veux, mais de l'autre bord, tu as le problème que même quelqu'un chuchote puis là, tu fais « Ouais, non, je t'entends tellement fort. »
Ouais, c'est ça. Ou tu fais juste bouger un peu trop, tu le sais. Là, quand ils sont proches, okay. En tout cas, ça a fait en sorte que je dis « OK, on le fait sans alcool. » Fait qu'on dit « Tu vas te casser la gueule, on l'essaye, on le fait. » Finalement, les journaux se sont emparés de l'histoire, les journaux du coin. Et ça a sorti dans les journaux. Et ça nous a fait une bonne publicité. Et les gens ont embarqué, sont venus voir, ils étaient curieux au départ. Ils sont venus voir les spectacles qu'on avait à présenter. C'est souvent des spectacles qui étaient un peu différents de ce qu'on voyait ailleurs. Puis la façon de les présenter, peut-être en tout cas.
C'était, ouais. C'était à l'écoute des gens aussi. Là, je sais que tu es quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, donc j'ai aucun problème à croire que tu dois avoir jasé avec le monde pour savoir qu'est-ce qui les intéressait puis essayer de leur faire plaisir. C'est pour ça que je vois beaucoup de théâtre musical, je vois beaucoup de théâtre d'été. Beaucoup de groupes hommages aussi. Tu sais, je regarde la programmation passée. Là.
Ben oui, écoute. Et ça fait en sorte que les gens repartent. Je ne suis pas inquiet quand ils partent.
Ouais.
Puis eux non plus ne sont pas inquiets.
Fait que c'est mais t'aurais-tu fait... cette mentalité-là si t'étais dans un bar qui est à l'extérieur d'ici? On dirait que là, vu que c'est chez vous, il y a quelque chose là-dedans, t'as un sentiment de responsabilité qui fait que tu te sens mal de regarder quelqu'un chez vous partir sous dans son char, puis... Même si c'est pas ta responsabilité, vu que c'est chez vous, on dirait que tu te dis, si t'es pour faire une salle, tu vas provoquer ça souvent, t'as pas envie d'avoir trop ça sur la conscience.
Si j'étais ailleurs.
Parce qu'il y a un cliché en région, là. Il y a un cliché de. Un stéréotype, comme de quoi, qu'en région, ça conduit sous. Puis honnêtement, tant qu'à moi, ça conduit ça à Montréal aussi, là. Mais on dirait que vu que généralement, il y a moins de police, c'est plus répandu, c'est plus. C'est encore actuel, ça? C'est encore vrai, d'après toi? Ou les gens sont vraiment de plus en plus conscientisés?
Oui, ils sont conscientisés, mais il en reste encore, c'est sûr.
Ils sont conscients qu'ils n'ont pas le droit, fait qu'ils font gâchette.
Ils font plus vite, c'est ça. Ils roulent juste un peu plus vite. Non, je dirais qu'il y en a sûrement moins. Moi, je me souviens, à l'époque où je consommais, tu sais ce que Michel Barrette raconte, là, avec la bière entre les jambes, c'était vrai, c'est même pas une blague. Là. Ouais. C'était vrai qu'on le faisait. Puis on voyait, c'est quoi le problème? Il n'y en avait pas de problème. Tu sais, c'est vrai que quand t'es trop pacté pour marcher, t'es mieux de prendre ton char, tu sais, si tu veux te rendre. Là,
c'est un peu ça qu'il dit.
Mais c'est ça. Non. Mais si j'étais ailleurs, tu me poses la question, si j'étais ailleurs, est-ce que j'aurais la même mentalité? Ben oui, je pense que n'importe où ce que...
Mais vu que t'as travaillé dans les bars, tu me disais que...
Oui, puis je voyais du monde partir en boisson, puis ça me dérangeait.
C'est ça. Ouais.
Ça faisait... Hey, shit.
Ouais. Mais à un moment donné, ça devient difficile de pas.
Mais là, tu peux pas.
Tu lâches prise, parce que justement, c'est pas
ça.
C'est ta vie, là. Mais quand tu fais ça chez vous, on dirait que tu as une espèce de plus-value de je suis obligé de faire exactement comme partout ailleurs.
Puis pour pas être obligé, justement, de mettre des freins, ben, en faisant ça, sans alcool, ben, il n'y en a pas de problème. T'sais. Puis les gens qui veulent prendre une bière, tu sais, on a un bar ici, pas tellement loin. Ouais. Les gens peuvent arrêter là, prendre une bière ou deux, puis il n'y aura pas de problème encore.
Ouais.
Puis à l'heure qu'ils partent, après une bière ou deux dans un bar en plus, il va être le temps d'aller te coucher.
Ouais.
C'est, tout est merveilleux. Puis avant, ben, ils vont au resto à côté. Fait que tu sais, ça fait rouler l'économie en même temps.
Ben, c'est une très bonne chose. J'ai envie de faire un peu ton parcours professionnel. D'où tu arrives? Parce que je réalise que je suis même pas sûr que je sais ça de toi. Moi, on a juste développé une relation basée sur on s'aise, puis pas de jugement, puis c'est le fun. Puis... Ouais. Mais j'ai jamais comme su vraiment. D'où t'as commencé?
Moi, je suis auteur, compositeur, interprète.
OK.
Si on part de là, quand j'étais plus jeune, je grattais la guitare, j'écrivais des textes de chansons, puis à un moment donné, là, faire une histoire courte.
On a le temps. Fais-la plus longue.
On va l'étirer, OK. On va l'étirer de bas. À l'âge de 17-18 ans, j'écris de plus en plus de chansons, puis bon, j'ai envie peut-être de faire ça. Mais... je tourne mal. Je suis parti déjà dans la boisson. À partir de l'âge de 14-15 ans, je suis déjà en train de consommer.
Okay.
Fait que donc, à 23 ans, j'ai arrêté de consommer et j'ai commencé à croire que je pouvais faire quelque chose. Et là, j'ai dit, OK, là, je vais... Et là, on me proposait, je faisais plein de concours, puis j'en ai gagné plusieurs. Je dis,
concours de chant.
Le concours amateur qui est dans les bars un peu partout, puis des soirées organisées, puis bon.
OK.
Puis je gagnais. C'était cool, c'était le fun, tu sais. Mais le premier que j'ai fait à jeun, là, aïe, il me semble que les jambes tapaient ensemble, les genoux claquaient, ça n'avait pas d'allure. Et je me souviens que les musiciens qui m'avaient déjà accompagné en boisson, un des musiciens, Ken, écoute, il dit, « Hey, man! » Il te chante bien mieux à jeun.
C'est drôle, ça.
Puis ça a été tard. Ça a été vers l'âge de 37-38 ans où j'ai vraiment décidé de présenter une chanson dans un concours sérieux qui était à Petite-Vallée.
Ah ouais, en Gaspésie?
Oui, en Gaspésie.
C'est connu, ce festival-là.
Oui, regarde, un concours super connu. Et puis, j'ai présenté une chanson qui, à l'époque, s'appelait Alors, qui s'appelait « Je te laisserai partir okay. », qui maintenant porte un autre titre. Ça s'appelle « Alors là seulement ».
OK.
Qui a été...
Pourquoi tu changes de titre? Juste curieux.
Ben, tu vas voir comment... Okay. Je m'en vais là, je fais la chanson « Je te laisserai partir » et je gagne le prix de la Socan.
OK.
Qui est la chanson, parmi toutes les chansons qui avaient été présentées, la mieux... construite, la chanson qui a été choisie par la Socan, c'est ma chanson.
C'est bien nice.
Ouais. Et là, moi, je suis déjà parti de la Gaspésie. Je suis déjà revenu parce que je travaille, moi. Et là, on m'appelle, on dit, écoute, c'est parce qu'on avait un beau prix pour toi. C'est peut-être que tu sois parti, mais on va t'envoyer ça. Fait qu'il m'a envoyé un beau chèque. Puis en même temps, tu sais, c'est nos pères qui nous jugent là-bas. C'est pas mon oncle, ma tante, puis ton frère, là.
C'est pas un concours de popularité, c'est un concours de justement...
Ouais. Et là, ça m'a donné confiance en ce que j'écrivais.
Puis ça, c'est à 37 ans?
Ouais, 37-38.
Fait que t'as pris beaucoup de temps avant d'aller...
Avant d'y croire, vraiment.
Mais c'était quoi? C'est-tu l'insécurité? C'est pourquoi tu... Ou c'est parce que tu le fais en disant, ah, ben, tu sais, c'est pas
écoute, je faisais ça pour mon plaisir, d'abord. C'est sûr qu'au fond, moi, je voulais faire ça. Mais... J'avais des engagements, puis bon, à un moment donné, tu as une famille, tu veux faire vivre ta famille, fait, donc tu travailles, puis ça, c'est à côté, c'est un hobby.
C'est normal. Hein?
Puis là, ben, ça a fait comme, OK, je l'essaye, je le fais. Je le fais, puis je gagnais plus de soccer. Fait que là, ben, écoute donc, ça a fait...
T'étais prêt.
Oui, mais hein, que j'étais prêt, il t'attend, là, tu sais. Et finalement, j'ai présenté cette chanson-là à Patrick Normand. C'est pas une chanson western du tout. Là. Ça n'a aucun rapport avec le country. Et lui, écoute, je rencontre Patrick Normand dans le centre-ville de Saint-Hyacinthe. Tu sais, c'est fait comme un centre-ville de Saint-Hyacinthe.
Oui, c'est un petit carré.
Ouais, petit carré. Il est là. Il y a Michael Pucci qui est sur scène avec lui, le guitariste.
Okay.
Je pense que Grenier est là aussi. En tout cas...
Ça, c'est des gars que je connais pas, par exemple. Je suis pas...
Ah non, écoute...
J'ai pas une très bonne culture des musiciens okay. au Québec, là.
Ben, les musiciens, les guitaristes, là, okay. quand on dit Michael Pucci, là, c'est un bon guitariste. Ben, okay. Patrick Normand aussi, là. Super
Patrick
bon
Normand,
musicien.
Lui, je sais qu'il est reconnu pour être, genre, juste une machine de musique tout court.
Et là, moi, j'avais contacté son gérant, à l'époque, puis Émile Campanello, qui me dit, écoute, il dit, si tu veux y remettre la cassette, parce qu'à l'époque, c'était des cassettes de ta chanson... Il va être à Saint-Hyacinthe, dans le parc. Ils font un test de son pour une émission de radio. Fait qu'il dit, va là, puis tu vas rencontrer le technicien de son qui s'appelle André. Et je m'en souviens parce que j'ai vécu d'autres choses par après, puis il était dans l'histoire aussi. Fait que je suis allé le rencontrer, et puis là, il m'amène à Patrick Normand. Et là, je ne juge pas la réaction de Patrick Normand, là. C'est un chic type, puis par la suite. Mais il y a tellement de monde après lui... Qui veut se débarrasser de moi.
C'est sûr, c'est normal.
Fait que là, le technicien, il dit, bon, il dit, je te présente Michel Bourdon. Il dit, ah ouais, qu'est-ce que tu voulais?
Là, t'as le cœur qui casse en deux, là.
Et là, ça a fait... Respire, man. OK. Qu'est-ce que je veux? Un tape cassette, puis 4 minutes et demie. Ah ouais, c'est toi le gars de la chanson? Oh. Hey, moi, je m'en viens y présenter. Selon moi, ce que j'ai écrit de plus beau, amené jusqu'à maintenant, puis c'est comme ça qu'il me reçoit. Aujourd'hui, je comprends. Oh, ouais. Mais, sur le coup, ça a fait mon... On coupera au montage.
Il n'y aura pas beaucoup de montage. Ouais, ouais. Puis tu peux... Tu es sur YouTube. Fait, tu peux sacrer. Tu peux
tabarslack, toi.
Oh, si c'est tabarslack que tu retenais, tu peux te laisser okay, là, c'est pas vrai.
Je peux même aller jusqu'à
tabarnak aussi. Là, je vais dire. Si tu veux pas y dire, passe-moi les, moi y dire.
Ouais.
Dire
fait que finalement, il dit, OK, il dit au gars, il dit aux autres musiciens, il dit, ce sera pas long, il dit, je reviens. Fait que là, il part, il vient avec moi. Fait que là, il s'enligne, il arrive à son auto. Il rouvre les portes du char, puis on s'assit dans son auto. Il pointe la cassette, il met ça dans le tape cassette, puis il commence à écouter ça. Puis il me regarde pas, là. Il me parle pas, il me regarde pas.
Il écoute ta chanson.
Il écoute. Ouais. Puis là, à un moment donné, il fait ça même. Il arrête la tape cassette. Il dit, c'est-tu le même tout le long? Et là, je me suis posé la question. C'est-tu bon, ça, qu'ils me disent ça? Ou c'est...
Ouais, je sais.
Comment je
t'en
prends
que
ça?
T'es dans quel sens?
Ben, c'est-tu même tout le long? C'est le texte, cette saveur-là, pas mal tout le long. Musicalement, c'est ça, oui. Aïe, aïe! C'est écœurant, man! Fait que là, il rewind. Les jeunes ne comprendront pas, là. Il fallait reculer la cassette.
Il met le couteau à beurre dans la cassette.
Ouais, c'est ça, on t'a connu ça, toi
il
aussi.
Il spin.
Et là, il réécoute ça, puis il me dit... Là, il dit, t'es dans course avec ta toune, le grand. Et finalement, il l'a mis sur un de ses albums. L'album qui a travaillé avec Michel Rivard, okay. qui a travaillé avec Kevin Parent, avec Okoumé, avec Bourbon Gauthier, avec Manuel Tadros. Alors, il y a aussi une chanson de Michel Bourdon. La deuxième, ça s'appelle « Alors là seulement ». Parce qu'il m'appelle ici, il est avec tout ce beau monde-là. Il me dit « Hey, Michel, ça te dérangerait-tu bien gros? » J'étais avec Michel Rivard, puis un autre, là, je ne sais pas trop lequel. Puis on se disait « Si on changeait le titre, ça te dérangerait-tu? » Tu sais, t'as tes sommités qui te demandent ça. Là. Ouais, je m'oppose à ça, moi. Ben non, je dis « Écoute, si vous pensez que... » Parce qu'il dit en disant « Je te laissais partir comme titre », c'est ce que ça raconte, l'histoire. On vend le punch, tu sais pas. Ben oui. OK, vas-y.
Tu sais, il y avait un raisonnement derrière. Tu vois, ouais, c'est... Les gars, ils ont pris le temps là, de s'asseoir puis de dire...
Tout à fait.
C'est ça qui est...
Mais pour moi, c'est sûr qu'elle s'appelle tout le temps « Je te laissais partir uh-huh. », tu sais. Mais...
Ben, t'as laissé ton titre partir.
J'ai laissé la chanson partir aussi. Et écoute, là, j'attendais... J'avais hâte d'entendre. Fait que là, à un moment donné, je reviens chez nous. Et là, j'ai un message sur le répondeur. C'est Patrick Normand. Il dit « Appelle-moi à n'importe quelle heure. C'est urgent. Je vais te faire entendre quelque chose. » Fait que moi, j'arrive, il est 11h30. Je dis « Ouais, n'importe quelle heure. 11h30, c'est pas mal n'importe quelle heure, ça.
Ouais, » ça rentre dans la catégorie.
Je l'appelle. « Hey, j'avais hâte que tu m'appelles. » Il dit « Écoute, il dit, j'ai fait un démo avec ta chanson. Dis-moi ce que t'en penses. » Et là, il me fait écouter ça. C'est débile. C'est les guitares de Patrick Normand, les unes par-dessus les autres. Il en a probablement fait 4 guitares, en tout cas.
Overdubbé.
Oh, ouais, ouais, ça sonnait large. Là. C'était vraiment nice. Là. Puis là, ça finit, tu sais. Là, il revient au téléphone. Il dit, pis,
ouais, pas pis.
J'ai remis son coup. Qu'est-ce que tu veux, toi, tu sais? OK. Ah ouais? Il dit pas plus que ça. Je te niaise, c'est super éclairant. Ah, là, j'étais déçu un peu. Il dit, moi, je la trouve bonne, la toune. Ben, tant mieux. Fait que finalement, c'est ça. Ça a sorti sur son album.
Non, ben, tu savais pas ça.
Ouais.
Puis là, à partir de là, t'as-tu continué?
J'ai pris des vacances. J'ai assez une toune en 20 ans. C'est assez...
Faut-tu quitter quand t'es au top, hein?
Ben, c'est faut-tu, ça. Non, écoute, par la suite, j'ai continué à écrire des chansons. J'en ai plein. Mais j'ai pas vraiment poussé pour placer mes chansons. Tu sais, quand je l'ai fait avec Patrick Normand, c'est parce qu'il y a eu...
Le timing
était là, tout se faisait là. Par la suite, j'ai rencontré quelqu'un qui était dans le domaine des chevaux.
Okay.
Mais moi, quand j'étais tout petit, là, 8, 9, 10 ans, je voulais des chevaux. Et quand j'ai acheté le terrain sur lequel est bâti l'écurie ici, il y a bien longtemps, je ne connaissais pas Sophie à l'époque. Je disais, un jour, je vais avoir des chevaux. Fait que ça va me prendre le terrain à côté pour pouvoir bâtir l'écurie.
Okay. As-tu grandi sur une terre avec des chevaux?
Non,
ou c'est juste,
pas du tout.
T'as toujours juste été appelé par... T'aimais ça, puis tu...
Ouais, OK. Ouais. Et là, finalement, je rencontre Sophie, pur hasard, à Place Bonaventure, un salon qui s'appelle... Salon été loisir, je ne sais pas trop quoi. Là.
Sophie, c'est ta partenaire dans
C'est
dans,
ma
dans
partenaire,
le
c'est ma femme.
C'est ta femme aussi,
c'est
mais
c'est l'amour
dire...
de ma vie. Ouais. C'est ça. C'est ma chum en même temps.
Ouais,
on a bien du fun. Non, c'est cool. Et on s'est rencontrés à la Place Bonaventure dans un kiosque qui vendait des produits de l'auberge de la Montagne Coupée. Okay. Sophie offrait l'équitation. Et moi, je m'en allais là pour offrir le théâtre, parce que j'étais en théâtre, parce que je suis arrivé dans le théâtre par la suite, accidentellement aussi.
Okay.
Théâtre d'humour, bien sûr.
Oui.
Et puis, on s'est rencontrés au kiosque, on s'est mis à déconner, puis ça a fait « OK, nous autres, on était dû pour se rencontrer. » Mais ça, c'est une autre histoire. Là. On parle de théâtre, tu veux savoir?
Mm-hmm. Je suis juste curieux. Ouais,
parce que là, tout... je suis dans la chanson.
Ben, c'est ça, mais tout fait du sens avec ton histoire ici. Oui. Là, fait que...
Je suis dans la chanson, puis à un moment donné, je monte une revue musicale qui s'appelle Johnny B. Good, le show. 5 musiciens live, 2 chanteuses avec moi. On fait des années 40 à aujourd'hui. Donc, de Frank Sinatra à Offenbach.
Cool.
On passe par toutes les gammes, le disco, le R&B, tout ça. Et là, je travaille dans... On fait la première saison dans un théâtre. Et les gens du théâtre, ils ont dit, écoute, c'est toi qui étais responsable de la troupe. On a trouvé que tu as fait un travail sérieux. On aimerait ça que tu t'occupes du théâtre ici, que tu nous bookes des shows pour l'été prochain. Est-ce que tu connais des gens qui pourraient nous faire une pièce de théâtre? Est-ce que tu peux t'occuper de ça? Je vais m'occuper de ça. Et là, je trouve quelqu'un qui faisait du théâtre et qui me dit, oui, je pourrais présenter quelque chose, mais est-ce que toi, tu joues au théâtre? Non, moi je suis chanteur, je ne suis pas. Ben, elle dit, je pense que tu pourrais jouer au théâtre, j'ai un rôle pour toi, dans une pièce. Elle regarde bien où est-ce qu'on s'en va, là, c'est fou. Là.
Ah, vas-y.
Et elle dit, si tu veux, elle dit, je vais te coacher personnellement. J'ai souvent vu des gars dire ça à des filles, mais c'est le contraire est aussi vrai.
Ouais, alors, je dis, malheureusement, okay. Oui, ça, c'est quelque chose qu'on voit fréquemment, ouais. Tristement, de...
Et,
pas des gars bien intentionnés, on parle.
Non, tout à fait. Dire, non, c'est ça.
C'est le classique de tu sais pas si. Mon micro, qu'est-ce que il est pas assez haut?
Ah, si.
Excuse-moi, je me fais chicaner par Fred.
Écoute, Fred, il fait un bon job, Fred.
Smoothie.
Il est en son affaire, je te dis.
Il faut recommencer le podcast au complet. Michel, est-ce correct? Michel est correct, on sait bien. Oui, Michel.
Regarde un micro, comment est-ce qu'on
peut
faire ça? Par contre, il bloque la vue un peu. Mais, pas du tout, OK.
Good.
Fred, il parle pas, lui, hein? Il n'a pas le droit de parler, lui.
Fred, ben, on l'entendra pas s'il parle. Mais okay. Fred, de Production 37, il donne un coup de pouce avec la caméra, puis qui dit qu'il veut pas qu'on parle de lui parce qu'il aime pas avoir de l'attention. Mais oui, non, c'est fait ça, les meetings de gars, mais non, mais parlons-en, c'est juste vite pour expliquer qu'est-ce que c'est ça. Souvent, il y a des gars qui vont utiliser cette technique-là pour genre, les filles, c'est plate pour elles dans le milieu artistique parce qu'ils savent jamais si c'est un meeting d'affaires ou si c'est genre une date, là, puis ils sont pognés dans des affaires de même. Fait.
C'est un peu la même chose qui se passait, mais à l'inverse.
Ouais.
Tu sais. Mais ça n'a pas fonctionné malheureusement pour elles parce que j'étais avec quelqu'un, puis je suis un gars fidèle.
Ben, c'est parfait, ça.
J'ai les défauts, que je te dis.
C'est ça.
Mais finalement, je suis allé quand même jouer au théâtre.
Okay.
Parce que j'ai dit, puisque je vais en produire, aussi bien connaître ce que c'est. Je suis allé et puis je jouais le rôle de Sarge.
Okay.
C'était pas Serge, c'est Sarge, ça s'écrivait comme ça. Et c'était l'histoire, c'est la déportation des prostituées, les filles du roi de France, en Australie. Fait qu'on les embarque dans un bateau, on les descend dans la cale du bateau et on les emmène en Australie. Ah. Et c'est moi qui s'occupe des filles dans la cale du bateau. Première fois de ma vie au théâtre, je suis à la salle Roland Brunel à Joliette.
Ah, quelle belle salle.
Et je viole une fille sur scène. Ah. Bienvenue dans le monde du théâtre.
Ah ouais, hein?
Et écoute, ça a été... Je passe le travail, je ne suis pas capable. T'sais. Et finalement, on a trouvé une façon de faire pour que ça se passe bien puis qu'on ait... On coupe à ce place-là, puis il a fallu que je travaille avec l'amateur en scène un peu, puis dis, regarde, ça te fait rien, on va couper là, puis on va le sentir que ça s'est fait. Bon, on n'est pas obligé de le voir nécessairement.
Ça doit être... Je ne sais pas comment tu te prépares pour les affaires de même.
Ah, hein. Écoute, puis j'ai pas d'expérience en théâtre, puis je me dis, si, c'est ça le théâtre.
Moi, je veux pas d'expérience en lieu non plus. Disons-le, là, mettons, soyons all around. Là. Mais c'est sûr que ça doit être juste difficile de se préparer pour ça, effectivement. En plus, quand il faut que tu le fasses devant des gens, il faut que tu cherches, il faut que tu aies canalisé quelque chose que tu connais pas vraiment. Puis te connaissant, sachant que tu es un grand sensible, je me dis que c'est pas quelque chose qui...
Non, puis...
C'est très loin de ta nature, mettons.
Puis la fille était beaucoup plus jeune que moi. Et j'étais vraiment pas bien dans la situation, mais j'ai passé au travers, on a arrangé de quoi, puis on est restés bons amis. Okay. Ça, c'est cool. Mais tout ça m'amène à être au théâtre. Et
t'as aimé assez ça pour continuer?
Ouais, ben c'est parce que là, cette personne-là, elle a proposé une pièce donc pour être jouée au théâtre que je m'occupais.
Uh-huh.
J'ai vu la pièce qui a été jouée, mais je suis pas content du résultat. Je trouve pas ça assez drôle. Fait que moi, étant donné que je suis là tous les soirs, je trouve des gags à mettre dans ce qui est là. Uh-huh. Je dis OK, puis à un moment donné, écoute, il est arrivé des... Je dis, toi, à cette place-là, tu vas dire ça à la place. Puis à cet endroit-là, tu t'es trompé l'autre soir, puis ça arrive, on va garder ça. Puis bon, je commence à récupérer les gags, et là, on commence à avoir du fun. On commence à avoir du plaisir. Et finalement, on finit la saison. Et là, l'an prochain, qu'est-ce qu'on présente? Il y a un de mes chums qui me dit, t'as pas commencé à écrire une pièce de théâtre, toi? Parce qu'un matin, je me lève, puis j'allais rencontrer des gens. Et c'était sérieux. Puis moi, je suis pas un gars à cravate, tu me connais, je suis pas bon. Mais là, il fallait vraiment que ça fasse. Alors, il faudrait que je me fasse un nœud de cravate, mais je sais pas comment faire. J'appelle mon père. Et là, je dis, hey, « Pops, il faut que je me fasse un nœud de cravate. Veux-tu m'expliquer comment faire? »
Au téléphone?
On est au téléphone. Fait que là, il dit, « Garde, c'est pas dur. Prends le petit bout. Là. Bon, prends ton petit bout. Envoie-le par en haut. Par en haut là, avance. Là, pousse ton petit bout par en avant. Pousse ton petit bout par en arrière. » Et là, moi, j'imagine ma mère, probablement assise à côté, qui est en train de lire un journal. Puis quand t'as mon père, dit, « Prends ton petit bout. » Puis fais ton petit. Je dis, « C'est donc bien drôle, cette situation-là. » Et j'ai écrit une pièce de théâtre à partir de ça qui s'appelle « Habitué, on sort
okay. »,
qui a été joué un peu partout à travers la province de Québec par la suite. Ça a été joué à Saint-Amable, ça a été joué quasiment jusqu'au Nouveau-Brunswick, à Saint-Louis-du-Haut.
C'est bien
ça a
cool,
été joué
ça.
Dans Beauce. Écoute, ça a été joué un peu partout.
Mais c'est-tu toujours toi qui as joué ou il y a des
non,
gens qui l'ont réinterprété?
Non, je ne vois pas, moi.
À ce moment-là, tu écrivais?
Je faisais la mise en scène.
OK, mise en scène, ouais, OK.
Mise en scène technique. Puis là, parce qu'on s'est dit, OK, j'ai écrit une pièce, maintenant, qui va faire la mise en scène? On ne connaissait pas personne. Fait. Je dis, moi, écoute, quand je l'écrivais, je voyais mes personnages. Mm-hmm. Je sais ce qu'ils devraient faire. Fait que je vais vous guider en attendant de trouver quelqu'un. Fait que j'ai joué les metteurs en scène. Mais à force de faire de la mise en scène puis de regarder ça, tu deviens metteur en scène. Mm-hmm. Et là, je disais, moi, je vais m'appeler Monsieur Vu d'ici. Vu d'ici, c'est plus beau si tu rentres par là que si tu rentres par là. Puis c'est plus beau si tu te lèves à ce moment-là. Puis...
Mais tu dis ça juste parce que tu veux pas volontairement te donner trop d'importance.
Imposteur total.
Juste...
Je veux pas.
Tu veux leur donner une perspective pour qu'ils soient d'accord avec toi, que ça n'ait pas l'air de toi qui veux contrôler tout. Puis...
J'aime pas ça. Prendre un rôle qui m'appartient pas. Je ne suis pas metteur en scène. J'ai pas étudié pour être metteur en scène. Sauf qu'à la longue, à force de faire un travail, tu l'as pas appris à l'école, mais tu l'as appris sur le terrain. Mm-hmm. Et quand j'étais tout petit, je te disais tantôt, moi, ce que je voulais faire, c'était ça, monter des spectacles. Puis je disais à un, tu vas faire ci, puis tu vas faire ça. C'était déjà de la mise en scène que je faisais. Alors donc, et j'ai l'œil, je pense, pour faire ça. Puis je dis, ah non, c'est bon, non, non, rentre là, mais rentre plus vite. Puis toi, attends, tu sais, c'est comme de l'humour. C'est, sur scène, les déplacements, c'est des mathématiques. Et là, ça fait, OK, ça, c'est bon. Ah, ça, c'est bon quand vous rentrez. Alors donc, j'ai commencé à faire de la mise en scène. Là, j'écrivais des textes. Et des pièces de théâtre à tous les ans. Je faisais la mise en scène, les décors. Enfin, on portait tous les chapeaux. Bon, et c'est de là que je me suis fait une réputation dans le milieu du théâtre d'été, du théâtre d'humour.
Okay. Mais souvent, le théâtre d'été a l'air d'être associé au comique.
C'est du vaudeville.
Ça semble être souvent ça.
C'est carrément ça.
C'est un peu la version humour stand-up, mais pour le théâtre, c'est là que tu t'en vas juste lâcher ton fou, puis... On n'est pas dans des grands Shakespeare, on est dans juste, on s'amuse, puis on... Un brou, c'est un théâtre d'été, tant qu'à moi. Là.
Oui, exactement. C'est du show de porte, hein?
C'est ça.
C'est du...
Tu sors, mais le but, c'est que ce soit facile
divertir les gens. Parce qu'au départ, le théâtre d'été a été inventé dans les années 60 pour divertir les touristes qui s'en allaient en campagne l'été à le chalet, puis il n'y avait rien à faire. Puis là, il y avait une vieille grange, ils ont dit, on va faire un théâtre, on va les amuser là-dedans. Okay. Ça a commencé comme ça. La vocation du théâtre d'été, c'était de divertir les gens. Et pour te dire, on a déjà essayé de faire du théâtre, qui était un théâtre qui n'était pas un théâtre d'été, et ça n'a pas fonctionné. Le monde ne rigolait pas, mais pas du tout. Puis le monde nous faisait des commentaires plates à la porte, t'sais. Et on était obligé d'arrêter. Puis de passer à autre chose.
Ils sont juste pas disposés à ça. C'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas ça qui.
Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent.
À ce moment-là, c'est rempoyable.
Excusez-moi.
C'est pas rempoyable.
Tu veux-tu que je garoche au bout de mes bras?
Non, zéro stress. Tu peux aller répondre si tu veux. On est sur Internet. On n'est pas pressé. Oui,
non. Qu'est-ce que tu es en train de dire, moi?
On parlait de la mise en scène, je pense. Puis, mais j'ai envie de passer au ranch, aux chevaux,
okay.
Tout ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est magnifique d'ici. C'est ta relation avec les chevaux. Ben toi et Sophie, en fait, là, parce que je pense que vous le faites ensemble. Puis vous avez...
Ben, en fait, on a commencé... j'ai rencontré Sophie à la Montagne Coupée, au théâtre de la Montagne Coupée. Moi, je m'occupais du théâtre. Elle s'occupait de l'équitation. Et on a partagé, les passions de l'autre. Et puis, elle est venue au théâtre, puis moi, je suis allé faire de l'équitation. Puis finalement, on est tombés amoureux, puis... Et on a décidé de jumeler nos deux passions parce que ça marche ensemble.
Ouais.
Les gens qui connaissent les chevaux, savent très bien que le quadrupède le plus sensible sur Terre, c'est le cheval, sans aucun doute.
Mais je savais pas ça. Moi, j'ai tout découvert ça. Puis c'est ça que j'aimerais qu'on... C'est ça que j'aimerais qu'on mette en valeur, qu'on discute. Justement, c'est un monde qui, pour moi, était complètement inconnu. Puis j'avais une brève expérience avec toi ici quand j'étais venu quand j'étais monté, puis j'avais une leçon de vie carrément la première fois que j'ai monté ici. Puis ça, je te l'avais jamais dit. Je te l'ai dit quand je suis venu faire mon show 10 ans après ici, là, à quel point ça avait été révélateur de le galop quand tu comprends qu'il faut que tu... Si tu veux pas que tu aies le cul qui tape sur le cheval puis que tu aies mal tout le long, faut que tu t'abandonnes. Là.
C'est ça. C'est, ben, si tu fais le galop, tu colles complètement au fond puis tu suis le mouvement.
Mais c'est ça.
Et vu que le trot, lui, tu vas te soulever à un rythme, au même rythme que le cheval fait ses pas. Il y a une cadence à suivre.
C'est ça. Mais il y a une écoute puis il y a un lâcher, il y a un laisser-aller qui fait que si tu essaies de garder le contrôle, ça fonctionnera jamais. Faut que tu fasses confiance au cheval puis tu t'abandonnes un peu. Puis on dirait que là, ça... moi, c'est comme ça que je l'avais pris.
Il y a une symbiose qui s'installe.
C'est exactement
ça. Carrément en symbiose, ça fait « Ah ben, gardons ça. »
Mais pour atteindre ta symbiose, faut que tu te laisses aller.
Oui, mais il faut que tu connectes. Faut que tu connectes avec l'autre en dessous. Tu sais, quand tu dis « on fait un team », là,
ouais.
On est deux sur scène, là, et quand tu t'en vas en balade à cheval, c'est la même chose. Puis il y en a du bon pour se donner des allures, des airs, je sais pas quoi. Ils ont vu bien des films western, ils se tiennent mou. Imagine, puis je donne l'exemple souvent, imagine que tu prends quelqu'un sur tes épaules et qu'il se tient comme ça.
C'est bien plus dur de le...
Ben, c'est désagréable de l'avoir sur son
parce
dos.
Parce que tu compenses tout le
alors
temps.
Donc, si tu tiens toujours droit, solide, ça, c'est facile. Puis quand t'as affaire à tourner à gauche ou à droite, là, penche-toi pas comme ça. Parce que imagine que t'as quelqu'un sur tes épaules, puis quand il vient le temps de tourner, il se penche comme ça.
Tu penses que tu vas l'échapper.
Mais ben là, c'est parce que tu vas perdre l'équilibre. Tu débalances ton poids. La même chose pour le cheval. Okay. Alors, on reste toujours droit. Tu sais, c'est des petits trucs qu'on...
Ça, c'est des trucs que t'apprends en faisant des cours ici, là?
Oui, tout à fait. Mais en même temps, quand les gens viennent faire de la randonnée, c'est la base de lui montrer ça. Okay. De lui dire, regarde, reste droit. Fais ça comme ça. Mais il y a tellement de choses. Les gens pensent que t'embarques là-dessus et là, tu vois le monde, ils font ça. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, faire avancer. Non, non. Ça, c'est quand t'es dans une voiture puis t'as des rênes puis tu veux faire aller les guides, les rênes sur les fesses du cheval pour lui donner contact pour qu'il avance.
Ils ont vu Ben Hur une fois.
Ouais, c'est ça. Puis là, ils pensent que ça va être comme... Ben non. Fait que, tu sais, ça, c'est... Et là, c'est pour ça qu'on a arrêté momentanément la randonnée avec le grand public pour faire de la simulation de randonnée dans un endroit clôturé qu'on appelle un manège pour leur apprendre ça. Okay. Avant de partir en rando, apprends à diriger ton cheval. Apprends comment ça fonctionne. Pourquoi il fait ça, mon cheval? Pourquoi il... Ben, tous ces pourquoi-là, on peut y répondre si je vois ce qui se passe. Mais quand on est en rando, je suis en avant, tu es le quatrième en arrière, je te vois pas, je peux pas répondre à rien, je peux pas t'aider. Fait que ça faisait en sorte que il semblait que même si on essayait d'en donner beaucoup avant le départ, c'était pas encore suffisant pour que les gens partent avec.
Les gens
n'ont
pas le temps de l'intégrer avant de partir.
Ben non, c'est sûr.
Mais j'aimerais ça qu'on vienne à la sensibilité, justement. Tu parlais des chevaux qui sont. Parce que tu dis les gens qui connaissent les chevaux. Mm-hmm. Puis maintenant, je catch, mais avant, comment tu l'expliquerais, en fait?
Je te dirais que les gens souvent pensent que le chien est le meilleur ami de l'homme, puis c'est l'animal le plus proche de nos sentiments. Non. Oui, il est.
Très proche.
Mais. Le cheval est encore plus sensible que le chien. J'adore les chiens, puis j'en ai toujours eu. Comment je t'expliquerais ça?
Oui.
Ça, c'est quoi? C'est un miroir.
OK.
Ben, le cheval, quand il est face à toi, puis tu es en contact avec, puis tu commences à connecter, ses réactions vont être versus ce que tu vas lui présenter. Okay. Tu y deviens ton miroir. Et puis les gens disent, des fois on entend ça, légende urbaine, si t'es nerveux, le cheval va être nerveux, puis non, il va ressentir ta nervosité, mais il sera pas nerveux pour autant. Mais okay. Oui, il va le ressentir.
Okay. Mais ça sonne tout le temps ésotérique, alors que ça ne l'est pas vrai.
C'est
ça. Tu vois ce que je veux dire?
Oui,
moi, j'arrive
juste
d'un background de science, fait que j'ai tout le temps eu de la misère à grabber ces trucs-là, mais je comprends que c'est pas ça, je comprends que finalement c'est juste...
Plexus solaire, on dégage de l'énergie. Hey, check bien ça. Moi, je connais pas, je connais rien des chevaux. Quand j'ai connu Sophie, je connaissais pas les chevaux. Je savais que j'en aurais. Je savais que je connecterais avec ça, mais je connaissais rien là-dedans.
Okay.
Et puis, moi, j'ai passé des semaines à juste regarder. Je parle pas, moi, dans ce sens-là. Je regarde, puis j'apprends en tabarnouche. Et je suis allé l'aider. J'ai fait des choses. Elle était certaine que je connaissais les chevaux. Non, j'ai juste regardé comment ça se faisait. Okay. Puis, à un moment donné, on reçoit des clients. Mais à l'époque, le stationnement, il était à peu près à 100 pieds. Et les gens débarquent de l'auto. Et je dis à Sophie, « Ouf, ça sera pas facile, ce rando-là.
» Tu savais déjà de...
Ben, je regardais les chevaux.
Hein?
Juste par leur comportement qui venait de changer, oups, il y a une énergie qui... Et on avait de la chenoute. Okay. Et là, ça a fait comme... Attends une minute, là. Et là, c'est là qu'on s'est rendu compte que le plexus solaire de l'être humain dégage de l'énergie. On dit des fois, il y a des gens qui tirent ton énergie, puis il y en a d'autres qui t'en donnent.
Ouais.
Hein? Mais le cheval, il est hyper sensible. Hyper, hyper sensible. Alors lui, il capte ça, là, plus rapidement que nous autres, pas mal. Alors, il est en mesure...
Une plus grosse bulle que nous? Comment ça marche? Est-ce qu'on le sait? Ou...
Ben, moi, je te dirais que sa sensibilité est palpable juste à le regarder.
Okay.
Tu vas le voir, tu prends deux personnes, ils vont travailler avec le même cheval, ils ne réagissent pas du tout de la même façon.
OK.
Tu vas embarquer quelqu'un sur un cheval, puis il dit, il ne veut pas avancer. T'embarques l'autre, il ne veut plus arrêter. Ben, c'est ça. Puis on a des chevaux qui sont plus sensibles à ça. Et il y en a un, entre autres, ici, il s'appelle Apache. Et puis ceux qui le connaissent, ils vont dire, oh mon Dieu, Apache, si tu n'as pas un petit peu de power, il va rester là, puis il va se planter les pieds, puis il va t'attendre.
Parce qu'il a sa personnalité aussi.
Ben, c'est exactement. Puis on ne veut pas enlever ça. On ne veut pas faire ce que la plupart des gens font, puis faites ce que vous voulez.
Formater les chevaux.
Ouais, mais les casser, comme ils disent, on va le casser. Non, non, non. C'est sa personnalité, il est comme ça. On va l'accepter comme ça.
Il y a une notion de respect aussi.
On va travailler, ben oui.
Si c'est un travail d'équipe, il faut que tu prennes l'autre comme il est, là, puis que tu travailles avec. Là.
Ouais. Alors, on va trouver la façon de travailler avec ce trait de tempérament, de caractère, puis on va y arriver pareil. Okay. On le cassera pas, parce que sinon, ils vont être toute la gang pareille, puis un peu comme on voit dans certains sens, les chevaux qui ont...
qui sont tristes.
Tristes, puis l'âme, c'est ça. Non, on veut pas ça. D'autres, on veut que les chevaux gardent leur personnalité, puis c'est pour ça que les gens aiment quand ils viennent, parce qu'un, ça va être tel cheval, l'autre, ça va être un autre, parce qu'on peut adapter les chevaux. Tu sais, on va mixer les personnes. Ah, toi, tu as le tempérament pour travailler avec un tel.
Okay. Comment tu identifies? Comment tu fais tes mix?
C'est vrai. Le monde ne savent pas ça, mais quand ils arrivent, première chose qu'on fait, on discute avec les gens, puis là, on arrête de parler. Et là, on les écoute.
Okay.
Et là, ils nous dévoilent le grand secret. Et là, tu viens, tu dis, OK. Là, on vient de trouver c'est qui. Toi, ça va être avec un tel. Toi, ça va être avec un tel. Puis... Et on se trompe rarement. On devient habitué aussi à ça. Ouais. Alors, on est capable de tout de saisir. Il est où au niveau anxiété? Tu sais, est-ce que... Ah, lui, oh non, OK, lui, il est calme. Lui, on va pouvoir lui donner tel cheval. Elle, oh, ça va prendre ça. Lui, ça va prendre ça. Puis...
C'est même pas pour faire de la thérapie, toi. C'est juste pour des randos, puis juste pour Dieu, là. Fait que c'est pas
au départ, non.
OK. Mais ce travail-là, tu dois le faire quand même si c'est pas pour dans un aspect thérapeutique. Là.
Ben, c'est,
parce qu'il faut si que tu fasses les bonnes équipes.
Si tu veux faire les bons mix, là, le mix parfait, tu vas trouver le bon cheval qui va être la bonne personne. On travaille en équipe, OK. T'sais, à l'école, on faisait des...
Choisissez-vous quelqu'un.
C'est ça.
Ouais.
Hein?
Ouais.
Alors, tu vas choisir une personne qui... Pourquoi on ne fait pas avec les animaux?
Absolument.
Alors donc, on devrait être à l'écoute beaucoup plus de ces grosses bestioles-là qui sont hyper, mais hyper sensibles. Écoute, il est arrivé... On a vécu tellement de choses incroyables avec les chevaux. Tu parlais de zoothérapie tantôt.
Oui, mais ça m'intéresse beaucoup, ces trucs-là.
On ne le fait pas de façon professionnelle. On le fait de façon accidentelle. En fait, c'est pas nous autres qui le fait. Et ça, je sais que les thérapeutes de ce monde vont m'haïr. Je m'en fous.
Okay.
C'est parce qu'ils connaissent pas les chevaux. Nous autres, on n'est pas des thérapeutes. Nos thérapeutes, ils ont quatre pattes. C'est eux autres qui vont faire la job. Nous autres, on va être un guide à travers ça. On va l'amener. Oui, on va jouer un petit peu à le faire travailler ça. Mais la thérapie va se faire... On ne fait pas de thérapie, mais ça va se faire naturellement.
Le côté bénéfique de tout ça.
Ouais. Ça va se faire de façon très naturelle. Et écoute, j'ai vu des gens pleurer. Une expérience comme ça qui est arrivée. Une petite madame qui, bon, elle veut partir en randonnée avec sa famille. Elle n'est pas montée encore, mais elle sent que son tour s'en vient, elle est en larmes. Je dis, ça va pas. Je ne suis pas capable. J'ai peur. Puis, je dis, je vais rester pas loin. T'sais. On la monte à cheval, mais effectivement, la madame, elle, écoute, en enchaîne. Non, je ne suis pas capable, Ben, on ne force pas le monde. Là, on va rester ensemble ici, puis on va s'amuser. Et là, j'ai travaillé dans un endroit clôturé qu'on appelait un manège, un petit manège rond qu'on avait à l'époque. Et puis, on a travaillé avec le cheval à aller chercher cette sensibilité-là. Écoute, le cheval devient comme un petit chien qui te suit partout. La madame a capoté, mais capoté. Elle a dit, ben voyons donc. Puis là, elle avait le cheval rendu ici sur son épaule, puis ça ne la dérangeait plus.
OK. Et comment tu casses ça? Comment tu travailles? Comment tu abordes ça?
Je te dirais qu'au départ, nous autres, on laisse tout simplement les gens aller à leurs limites.
OK.
Alors donc, tu vas sentir où est-ce que la personne est capable. Il y en a que le cheval est rendu à deux pieds et il est déjà trop proche.
OK.
OK, on part de là. Alors, tu sais déjà, ton point de départ, il est là. Elle, à deux pieds, il est déjà trop proche. Alors, tu vas t'interposer un petit peu. Puis le cheval, il va connecter plus vite avec moi. Il me connaît. Il connaît mes réactions. Il connaît mes odeurs. Alors, je vais m'interposer. Donc, la connexion va se faire avec moi, puis doucement avec elle. Et plus elle va prendre confiance en elle, habituellement, ça prend à peu près 20 minutes.
OK.
Et puis, elle va finir par être à côté dessus.
Mais moi, je suis là. Puis il sent qu'elle, graduellement, elle change. Là.
Tout à fait. Okay. Mais moi, je reste là. Je suis comme le lien. Et plus ça avance là, plus je me recule, puis finalement, ça va se faire.
OK. Et ça rassure-tu le cheval aussi que tu sois là? Parce que s'il sent qu'il n'est pas bien, j'imagine que...
Par les réactions, c'est, je te dirais oui. Mais tu sais, faudrait
jaser avec le cheval.
C'est ça. Puis écoute, mais c'est ça. Et leur façon de nous répondre, c'est vraiment dans les ajustements, puis comment ils se comportent. Puis si je vois qu'il y a un cheval qui se comporte, tu sais, ça peut arriver l'incompatibilité.
Mm-hmm.
C'est déjà arrivé, ça. J'ai vu une madame, moi, elle a embarqué sur un cheval qui, en temps normal, tu sais, il a du tempérament, mais la madame, elle arrive avec ses petites bottes d'équitation, puis son kit. Bon, c'est quelqu'un d'habitué.
C'est ce qu'elle fait.
Ben, tu sais, c'est ça. Et on n'a pas fait tellement long. Ici, ça descend à peu près à 200 pieds. Ça descend en bas, c'est du beau sable. Il a dit, toi, tu débarques. Il a juste fait... Il l'a débarqué sur son dos. J'ai jamais vu ça. J'ai vu ça une fois, là. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Elle dit, je sais pas. Il l'a carrément débarqué sur son dos. Incompatibilité. Je dis, il y a sûrement quelque chose qui lui fait mal, tu sais, parce qu'il n'a jamais fait ça. Fait que là, je lui dis, ce qu'on va faire, on va changer de... Et j'avais son frère à ce cheval-là.
OK.
Fait que là, je lui dis, ben là, quand elle a vu l'autre, elle a dit, il ressemble beaucoup. Je lui dis, oui, mais regardez, il est fin. Et on a fait la rando, il ne s'est jamais rien passé.
OK.
Incompatibilité.
Puis toi, quand toi t'as monté l'autre, puis il n'y a pas de problème.
Pas en tout.
Toi, il a fallu que tu bâtisses une relation avec tous les chevaux?
Tout le temps. La confiance, là, c'est dans les deux sens tout le temps.
OK.
Puis avec les chevaux, si t'as pas ça, puis si t'as pas la qualité ultime, tu ne l'auras pas.
Okay.
Qui est la qualité ultime?
L'écoute. Je ne sais pas.
La patience.
La patience, OK.
Parce que le cheval, lui, la notion du temps, là, hier, demain, là, il n'est pas là pantoute. Okay. Lui, il est ce qu'on devrait acquérir, moment présent, tout le temps. Alors, le cheval, lui, c'est là, là. Là, qu'est-ce qui se passe là? C'est ça qui est important. Ce qui s'est passé hier, ce qui va se passer demain, il n'a pas conscience.
Il est tout le temps connecté.
Connecté à l'eau.
Tout le temps.
Alors, on doit, quand on vit avec les chevaux, se ramener à l'ordre puis dire, OK, si je n'ai pas de temps aujourd'hui, je ne ferai pas d'entraînement de chevaux parce que ça ne sera pas un bon entraînement. Ouais. Je vais vouloir brusquer les choses, je vais vouloir faire que ça y aille vite. Ça, c'est l'être humain, on est comme ça, puis il faut performer. Puis le cheval, il s'en fout, lui. Lui, il est là, pourquoi tu rushes comme ça, là, tu sais... Je suis en train de manger, pourquoi tu me rushes, là?
Est-ce qu'il est là un peu la forme de non officielle de thérapie pour plein de gens? T'es obligé de te reconnecter dans le moment, puis de faire... Si tu te déconnectes puis t'es pas là, il y a rien qui va se passer anyways. Fait que naturellement, c'est ça que t'apprends à faire sans t'en rendre compte, à te regrounder dans...
Ça se fait... À partir du moment où tu arrives à côté des chevaux, tu te regroundes. Ça se fait naturellement. Et là, les gens arrivent, et là, tu vois les réactions, et là, tu sais... Tu le sens qu'il y a quelque chose qui va plus ou moins ou qu'il y a de l'anxiété, de la nervosité, peu importe. tu vas en faire de la zoothérapie, veux, ouais, ouais, ouais. Tu vas en faire, tu vas faire de la gestion de crise même des fois.
OK.
Tu sais, parce que il y a des paniques sincères. Il y a des gens qui paniquent à cheval pour rien. Là.
Ah ouais. Mais,
ben oui, il a passé un oiseau, le cheval il a fait deux pas de côté. Mais dans la tête du monde, mon cheval il est parti à épouvante. Là.
Ah oui.
Tu comprends? Mais il a fait juste pouf pouf. Mais ça se passe tellement vite que.
T'as-tu donc, déjà eu des grosses histoires d'horreur de...
Non, on n'a pas vécu des... Ben oui, on a eu des histoires de chevaux qui ont eu peur. Là, ouais. La semaine passée, c'est pas loin, ça. J'attache un cheval après la barrière pendant que Sophie donne le coup. Et tout près d'un abri, on n'a pas eu de nid de guêpe de l'été.
OK.
Et là, à un moment donné, Sophie, elle me dit, « Michel, regarde Buddy. Buddy, c'est le nom du cheval. Et Buddy est en train de se faire piquer par des guêpes.
Ah
il y a un nid de guêpe qui s'est installé là, dernièrement, bien sûr, dans les derniers jours. Et là, il faut que j'aille le détacher. Mais là, lui, il a sa panique, il se fait piquer à tour de bras.
Pôle.
Fait que je me glisse entre la bâtisse puis le cheval, puis on fait des nœuds de panique. On défait ça, et là, finalement...
C'est quoi un nœud de panique?
Un nœud de panique, c'est un nœud qui... Si ton cheval panique puis qu'il tire de reculons, tu vas juste tirer sur le bout qui dépasse et ton nœud va se défaire. Vu que si tu fais un nœud standard... Ça se défait plus.
Ben oui, t'auras pas de lousse pour venir
ben
le
faire. Ben non, puis plus il va tirer, plus il va durcir le nœud. Fait que tu pourras jamais le défaire. T'sais.
Quand il panique, c'est carrément.
C'est carrément pour le sauver.
OK.
Ouais, ouais. Quand il y a des heures, puis des heures, puis des heures de plaisir avec les chevaux à découvrir les subtilités des chevaux, c'est incroyable.
Ben cette sensibilité-là, elle se traduit aussi comme ça. J'ai l'impression que tu l'apprends. T'en apprends autant sur toi, j'imagine, que sur le cheval. Le fait miroir que tu me parlais tantôt.
T'as entièrement raison.
C'est là que tu vas. Là. Si t'as un miroir, c'est parce qu'à chaque fois, si t'es pas bien, il le sait. Là.
Ah oui.
Fait qu'il t'écoute pas.
Il y a des fois, là, ben pas qu'il t'écoute pas, c'est... Et tu vas le sentir.
Tu n'es pas affirmé, c'est tout ça? Faut que tu sois...
Toi, là, quand tu rentres avec les chevaux, là, mettons, là, t'en mets 7-8 là, dans un package, puis il faut que tu rentres là avec un bac de moulé. Là. Qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Là? Hein? Ils s'en viennent sur toi. Là. Alors toi, il faut que tu deviennes ce qu'on appelle alpha.
Okay.
Numéro un, là, c'est pas un de ceux-là, c'est toi.
Okay.
Alors, t'as vu Sophie, à mesure 5 pieds, elle est toute petite. Quand elle rentre, là, ça se tasse tout.
Elle a cette énergie-là?
Elle fait « Hey! » Excusez.
Ah, ça fait.
Ça fait. Et non, tu dégages. Puis, écoute, le cheval a beau avoir la grosseur qui. Non, c'est elle qui est alpha.
Mais ça, c'est quelque chose qui est enseigné aussi. Ben, je vais en parler un petit peu. Là. Je ne m'éterniserai pas sur le sujet, là, mais j'ai fait un peu de thérapie avec un cheval. Pas avec toi, en fait. Pas ici. Là, j'ai fait ça ailleurs. Puis, aussitôt que je l'ai fait. Je t'ai écrit tout de suite pour faire « Hey, Michel!
Je sais de quoi tu parles!
Je comprends maintenant quand tu disais! » Puis là, t'étais comme « Le miroir! » Puis là, j'étais « Oui, le miroir! »
C'est ça.
Puis c'est exactement ça qu'on apprenait à faire. C'est en fait, moi, l'exercice, c'était dans un manège de contrôler la vitesse du cheval juste en gérant mon énergie. Fait, tu le fais, il y a quatre vitesses. Il y a l'arrêt, le pas, le galop,
le trot, le galop.
Mm. Puis juste en te groundant, puis en t'écoutant, puis ça sonne. J'ai de la misère à l'expliquer sans que ça sonne ésotérique puis spirituel. C'est pas ça. C'est juste l'écoute.
Ben, c'est
juste
ça.
La sensibilité. Mais c'est parce que c'est proche.
Il y a un côté... C'est ça, c'est
mais
parce
il y a un côté magie, mais c'est pas magie. C'est juste de l'écoute d'émotion. C'est juste du...
C'est parce que l'énergie, on la voit pas. S'entends-tu que l'énergie que tu dégages, je la vois pas?
Oui, c'est flou pour tout le monde.
Alors, donc, à partir du moment où on voit pas quelque chose, on dit c'est de la magie, c'est de l'ésotérisme. Non. C'est de l'énergie qu'on n'est pas capable de canaliser, de mettre en boîte,
ouais.
Mais qu'on va canaliser en fonction d'un exercice qu'on va faire avec un animal, et ça fonctionne. Ouais. Je pose toute mon énergie là, et le cheval répond à des pressions.
C'est fou, okay. Là. Je veux dire, puis j'y croyais pas avant de le vivre, puis avant de vraiment réussir à faire avancer le cheval super vite. Il tourne autour de moi sans même que je le dirige pas avec rien, puis je parle pas non plus. Puis pour le faire ralentir, elle m'a dit fallait ralentir. Je suis pas capable. Elle dit faut que tu te calmes. Puis j'ai fait OK. Fait que là, c'est un exercice de réussir à me. Puis aussitôt que j'ai réussi à relâcher, puis j'ai senti, tu sais, quand tu prends. ça a pris une fraction de seconde, clap, il a ralenti. Puis c'est là que j'ai fait « Oh, fuck! » Puis ouais. Moi, je suis parti à broyer tout de suite parce que je broye dans la vie. Ouais. Mais c'était l'espèce de prise de conscience automatique de « t'as plus de pouvoir que tu penses sur ton environnement, juste de par ce que t'es, juste de par l'état que t'as. » Puis ça, c'est quelque chose que j'avais jamais été éduqué à ça. C'est pas des choses qu'on apprend ben ou dont on nous parle, mais on l'utilise à tous les jours. Quelqu'un que t'as une intuition, il me semble, tu rentres d'une pièce, tu sais que la personne ne file pas, ou t'es comme, il me semble que... Ou que
l'énergie qu'elle t'envoie,
exactement,
là, tu la ressens. Hein?
Mais on trouve pas ça magique, on trouve pas ça ésotérique quand c'est avec, dans une pièce avec des gens ou dans un party, que tu fais comme, ah, lui, j'ai pas le goût d'aller y parler aujourd'hui, juste parce qu'il a pas l'air bien. Tout le monde le vit, ça, par rapport à des gens dans leur entourage. Mais là, si tu mets un animal là-dedans, on dirait qu'automatiquement, ça devient...
Ben, c'est parce qu'on a comme le droit de le juger, on a le droit d'en parler, on a le droit de tout faire parce que c'est un animal. Ah, vu okay. que, ben, tu sais, on a le droit. On sera pas mal vu parce qu'on va dire, ah, oh, l'animal, il est comme ci ou il est comme ça.
Ah, j'avoue.
Ouais. Mais si c'est un être humain, tu vas dire, ah, oh, non, tu le juges. Pourquoi tu le juges, tu sais?
Ah, wow! J'avais pas pensé à ça.
Ben oui. Mais tu parlais de quelque chose tantôt, et ça, c'est l'énergie qu'on dégage, là.
Ouais.
Et qu'on envoie, tu dis que ça faisait aller plus vite, puis moins vite. Puis... Mm-hmm. Oui. J'ai perdu le fil.
OK.
Non, aussi, je mangeais avec ça.
J'ai pensé qu'il y avait une araignée dans le lavabo, puis que j'ai eu peur.
Oui, tantôt.
T'allais aux toilettes, puis j'arrive à me laver les mains, il y a une araignée qui sort, puis je fais juste hurler. Puis tu dis qu'il y a un peu de famille dans le lavabo.
J'ai besoin d'aide.
J'ai peur. Je pense que j'ai envoyé de mauvaise énergie à l'araignée, puis... Elle voulait pas, je me lave les mains.
Mais c'est ça.
Oui, tu parlais de la vitesse, le manège, un des exercices que...
Les énergies qu'on dégage, bonnes ou pas bonnes, le cheval, il est capte, ouais. il est gobe, là, lui, là, puis il nous fait le miroir de ça. En fait, quand tu es en contact avec les chevaux de façon régulière, quand tu files pas, là, tu vas t'accoter sur le bord de la clôture, laisse-les aller. Tu vas le voir, les chevaux, il y a des fois que le cheval, on est collé sur toi, puis des fois, il va se tenir au fond, là-bas. Fait que tu veux savoir dans quel état tu es. Tu imagines ce que, si le cheval, si on fait cet effet-là sur les animaux, on le fait aussi sur les êtres humains autour de nous, là.
Ouais.
C'est moche.
Ouais.
Tu sais, c'est...
Ouais.
Mais c'est ça. Versus, comme je disais, l'animal, lui...
Mais ce que tu viens de dire, là, ça, puis le fait qu'on juge pas parce que c'est un animal, on dirait que si on parlait comme ça d'un humain, on dirait tu juges, tu as des préjugés, alors qu'un animal, on les laisse. On peut les mettre dans les boîtes qu'on veut, puis on sous-estime beaucoup les animaux à plusieurs égards, juste parce qu'ils peuvent pas, mettons. C'est pas parce que ton chien peut pas jouer au Scrabble qu'il y a pas des qualités que t'as pas, là.
Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qu'on a pas.
C'est ça. Il y a ce genre de... C'est pas pour... Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Il y a un respect, je trouve, qui s'installe dans le... OK, on fait vraiment plus partie d'un tout que d'être supérieur puis d'être hiérarchique au-dessus de... On est la race supérieure. J'ai comme commencé à essayer de... Pas commencer, là, mais dans ma vie, graduellement, grâce à des contacts comme ça puis à des gens comme toi que je rencontre, à faire... OK, il y a tellement de... Tout... C'est un gros tout qui marche ensemble. Je sais pas si c'est clair comment je l'exprime, là, mais il y a pas de... Oui, il y a une chaîne alimentaire, c'est beau, mais...
Il y a une hiérarchie.
Il y a une hiérarchie qui se crée naturellement. Mais tout le monde a ses forces, ses faiblesses, puis je veux dire, l'humain n'est pas au top dans tout.
Fait qu'il y a moyen... On a chacun nos forces, nos faiblesses. Mais quand on parle de respect, c'est le respect, c'est dans les deux sens. Il te respecte à partir du moment où tu le respectes, et le cheval réagit par imitation. Réagit par imitation. Donc, s'il a été habitué à quelque chose, qu'il a vu quelque chose, il va faire la même chose. Tu sais, on dit souvent, les animaux ressemblent à leur maître. Bien, souvent, on regarde ça. Mais il m'est arrivé quelque chose. Et là, on rentre dans l'ésotérique. On voit un bout de fucké.
On va y aller.
On envoie dans le. Là, on tombe là. Attention.
Bout de fucké. Je m'ouvre. Je reste ouvert d'esprit.
Un matin que j'ai du temps, ce qui m'arrive rarement, mais ce matin-là, j'ai du temps. On a une petite jument ici qui s'appelle Chanel. Elle est vraiment toute belle, toute cute. Sauf qu'on ne la connaît pas beaucoup. Elle vient d'arriver et elle souffre d'anxiété. On l'attache pour la préparer. Elle va tirer ce qu'on appelle les gens du monde des chevaux vont savoir quand on dit tirer au renard. C'est un cheval qui tire de reculons. Il va tout casser ce qui est en avant. Là. Il va même, j'en ai déjà vu, qui se sont cassés le cou à force de tirer.
Tellement qu'ils voulaient pas.
Ils voulaient se déprendre de là. Et elle a un peu ce problème-là au départ, quand on l'a eu. Un matin que j'ai du temps, Je dis, tiens, moi, je passe du temps avec Chanel. Je l'emmène dans le grand manège et je commence à faire des manœuvres avec elle au sol. Donc, je ne suis pas monté dessus, là. Je suis juste à côté, juste, je fais faire des déplacements juste à la toucher. Parce qu'on sait que les chevaux, là, le monde du mécanique, là, les gars, les mécaniciens, vous allez comprendre, là, les chevaux, c'est plein de sensors, ça. Tu touches à une place, ça veut dire quelque chose, ça va torser ton cheval, en tout cas. Et c'est ça. Okay. Alors là, je travaille les sensors.
T'apprends à décoder un peu le cheval.
Et là... Quand on travaille avec les chevaux et qu'on commence à se comprendre, la connexion est faite. Tu es dans ta bulle. Ça, idéalement, tu n'as personne à côté de toi. Tu es tout seul avec. Et la connexion est forte.
Sinon, c'est des distractions.
Tu es distrait ou elle est distraite. Alors donc, c'est dur de rentrer en communication parce qu'on s'entend qu'on n'a pas de... On n'a pas de phrase qu'on peut se dire. C'est vraiment juste... C'est du senti, c'est des mouvements, c'est des gestes, c'est du mime, beaucoup. Et là... Je commence à travailler avec elle et ça se passe bien. Il y a des mouvements même que j'arrive à lui faire, qu'habituellement, ça prend des années, des mois, des semaines au moins, à arriver à faire avec un cheval. Et là, j'arrive à lui faire ça. Et là, arrive le moment ultime. Et attention, ce que je vous dis là, quand tu sens que tu veux faire comprendre quelque chose à un cheval, un animal, peu importe, là, pour l'instant, en l'occurrence, on parle des chevaux, et que le contact se fait, puis que le cheval comprend ce que tu veux lui faire comprendre, que ce que tu envoies est capté, hein, récepteur, ça va. Mais quand tu sens que l'animal vient chercher l'information à l'intérieur de toi...
Là, je comprends ce que tu veux dire.
Ça, c'est fucké. Ouais. Ça, c'est fucké. Parce que ça, tu t'attends pas à ça. Ça fait... Qu'est-ce qui m'arrive? Et là, Sophie s'en vient. Elle est avec
ça que tu n'as pas besoin de diffuser. Il est déjà au courant.
Juste d'en parler, là.
Les gens
qui me connaissent, ils savent que je suis ouf au bord. Ouais. Là, ça fait, mais qu'est-ce qui se passe, là? C'est bien débile, ça.
Quand tu as une connexion qui est tellement... Tu n'as même pas besoin, dans le fond, c'est-tu que tu n'as même pas besoin de le...
Tu n'as pas besoin de pousser, tu n'as pas besoin d'émettre...
C'est ça.
Il vient chercher. Et écoute, cette sensation-là de sentir que l'animal vient chercher l'information dans toi, puis c'est comme si tu disais, c'est-tu bien ça que tu veux?
Ouais.
Écoute, ça... Et là, j'étais rendu, puis là, écoute, Sophie s'en vient avec le tracteur à part du manège, puis elle conduit le tracteur. Ben oui, t'en prends une qui le fait. Et là, elle est rendue là. Puis moi, je suis à peu près à 100 pieds à côté. Et là, je lui fais signe, arrête. Fais juste regarder. Et là, je suis avec Chanel et je danse.
OK. Tu danses avec
le cheval? Je danse avec le cheval.
Genre, est en avant de toi.
Elle est en avant de moi. Je recule à l'avance. J'avance, elle recule. Je fais un cha-cha-cha au ralenti avec le cheval. Puis le monde des chevaux, ils savent faire des pattes croisées comme ça là, pour les chevaux. Il faut que tu les apprennes à faire ça.
OK.
Et quand je tasse de côté puis que je me... Donc, quand on dit par imitation, à voir que je fais ça, elle le fait en avant de moi.
Ça, elle n'a jamais appris ça avant?
Moi, je ne lui ai jamais appris.
Okay.
Si elle l'a appris, ce n'est pas avec nous autres.
Okay.
Puis ce n'est pas avec les gens qui l'avaient avant, je suis persuadé. Donc, il s'est passé de quoi? Une connexion suffisamment forte pour qu'elle dise... En fait, ce que j'en comprends, c'est que, OK, tout ce que tu vas me demander, là, je suis prêt à le faire. Elle était disposée à ça. La connexion était parfaite. La journée était parfaite. Oui, j'ai vécu plus grande émotion à vie avec un cheval. Là. En tout cas, oui, c'est ce moment-là. Ouais.
C'est magique, ça.
C'est débile.
Mais c'est beau, ça, parce que c'est... Il y a un exercice aussi que j'avais fait qui me semble être dans ce coin-là, qui était dans le but, c'était d'apprendre à créer, à tisser des liens de confiance. C'était basé uniquement sur la bulle et la limite. Respecter la limite de l'autre, donc du cheval, lui sent ta bulle. Fait si tu le laisses venir à toi, il va venir en ligne droite, mais si tu t'affirmes que tu veux pas qu'il vienne, naturellement il va t'arrêter ou il va te contourner.
Tout à fait.
Puis c'est d'apprendre à comprendre ça puis à s'écouter avant que ce soit trop tard, parce que souvent on va réagir quand ça monte dans le chest puis là tu pètes une coche ou tu mets. Mais là tu apprends à t'écouter que tu as atteint ta limite quand tu commences à le sentir au début de la chaîne, pas à la fin. Fait que c'est juste une rééducation de ce niveau-là. Puis, pas la morale, mais le but de l'exercice au final, c'était que à la fin, tu finis que le cheval, quand il s'en vient, tu lui fais sentir que non, puis il arrête. Puis il sent, puis il arrête là. Puis toi, tu t'en vas vers lui, quand il te fait sentir, il t'envoie un signal que lui est comme non, là, t'es dans ma bulle. Toi, il faut que tu arrêtes toi-même, puis que tu le reconnaisses. Puis le lien de confiance, il se bâtit comme ça, il se bâtit sur le fait que tu fais confiance que quand toi, tu seras pas bien, l'autre va le reconnaître, tu n'auras pas besoin de le nommer, puis il va se retirer. Fait qu'à partir de là, tu peux faire confiance parce que tu sais que tu n'auras pas besoin de te défendre contre quelqu'un.
C'est ça. Puis les limites sont placées, on les connaît, on les respecte.
C'est ça.
Tout à fait.
Ah, exactement, c'est magnifique.
Ça. C'est exactement ça.
C'est vraiment... C'est cool, hein? C'est merveilleux. Ouais, C'est pour ça que je voulais vraiment qu'on vienne venir te jaser et puis prendre le temps de venir te parler.
Écoute, parce
que
On n'a jamais fait ça. Même en tant que chum, là, on se parle de business souvent, ouais. On parle de où est-ce qu'on est rendu dans nos affaires, nos petits problèmes personnels, mais s'ouvrir comme ça sur notre travail puis nos passions, parce que c'est ça.
Oui, on n'a jamais fait ça.
Non,
c'est ça qui est. Mais je pense qu'on est deux gros sensibles, fait que ça fait qu'on se cesse.
Oui,
on se comprend sans trop se parler, là. Mais je trouve ça magnifique le travail que tu fais ici avec les chevaux et avec tout ça. Puis les camps, est-ce que c'est né un peu de ça?
Les camps, c'était un autre accident.
À ça, jeune, là, c'est un beau cadeau que tu fais à n'importe quel adulte ou pré-adulte en développement,
ouais.
D'y ouvrir cette porte-là par rapport à ce que tu dégages, ce que tu es. Juste. Les notions de respect, les notions de limite, les notions de ton état influence l'état autour, parce que tu n'as pas le choix d'atteindre cet état-là pour réussir à faire tout ce que tu veux faire avec les animaux. Fait.
Et ce qu'on fait quand on fait les camps en même temps, c'est qu'on ne prend pas beaucoup de monde.
Okay.
On va aller à des groupes de 14, on va bloquer ça là, pour que ça crée un esprit familial. Et le respect qu'ils doivent avoir les uns avec les autres est essentiel. Essentiel et...
À l'intérieur du groupe même.
Ah oui, regarde. Okay. Et l'entraide. Fait qu'on va souvent jumeler une grande sœur avec une plus jeune, une grande avec une jeune. Puis là, tu dis, ouais, mais c'est plate parce qu'elles ne sont pas du même âge. Non, non. Quand tu as 12, 13, 14 ans, puis que tu aides un plus jeune de 8, 9, 10, pendant que tu l'aides, tu es en train de faire des ancrages à toi-même. Là.
OK.
Ce que tu lui montres, puis nous autres, on écoute toujours pour voir si les indications sont vraiment bonnes. Ce que tu lui montres est en train de te l'ancrer à toi.
Okay.
Et tu avances 10 fois plus vite. En voyant les erreurs de l'autre, tu te vois. Pendant que tu places l'autre à cheval, les positions de main, les positions de corps, les positions de pied, tu te places toi-même. Fait que quand tu vas monter, tu vas en prendre connaissance tout de suite.
Pour enseigner aussi, faut que tu l'assimiles, fait qu'il faut que tu t'arranges pour le réduire, puis l'analyser, le découper dans ta tête pour pouvoir le transmettre. Fait que à ce moment-là, c'est ça, tu le précises même pour toi. Là, c'est ça qui est le fun.
Fait qu'on prend nos plus habitués, on dit « OK, on a besoin d'aide ici ». Alors donc, ça va être les habitués qui vont venir aider. Okay. Ils vont se placer, on va choisir les tempéraments. On fait la même chose qu'avec les chevaux, avec les êtres humains.
Okay.
OK, gars, viens aider une telle, viens aider et un tel. Et c'est magique. Quand arrive le vendredi qu'il faut partir, les jeunes, là, ils veulent plus partir. Nous autres, c'est du 8-16 ans.
Okay.
Les jeunes, ça pleure. Écoute, on a des commentaires incroyables par Internet, des petits mots autour des matelas, autour des oreillers, les jeunes qui nous laissent. Des fois, c'est pas drôle. Des fois,
il y en a qui veulent pas retourner où est-ce qu'ils étaient, là. Ouais.
Ouais. Des fois, il y a des états d'âme qui sont laissés sur papier qui fait aïe aïe, on savait pas ça. Ouais. Mais tout ça pour dire qu'on a créé des liens depuis nos débuts. C'est arrivé de façon accidentelle. On ne devait pas faire ça. On le fait pour dépanner. Puis finalement, on a embarqué dans ça. Et souvent, on se dit, est-ce qu'on le refait encore l'an prochain? C'est tellement de travail. C'est tellement demandant. Et on veut tellement être certain que le jeune vive le camp de ses rêves.
Ouais.
Qu'on se dépense. Écoute,
je sais. À chaque fois que tu parles de ce que tu fais, je fais comme
Ah oui, je te jure. Mais tu sais que.
Là, on a une antenne de radio, on a un poste de radio, puis là, les jeunes font des émissions.
Oui, monsieur. Parce que les jeunes arrivaient avec leur iPhone, leur iPod, puis on était obligé de dire non, tu peux pas avoir ça ici parce qu'on doit avoir toute ton attention, tu sais. Et te battre contre quelque chose qui. Le iPhone, le iPod, c'est leur vie.
Puis il faut pas les blâmer de ça. C'est pas
c'est
eux
autres
qui l'ont
qui
inventé.
Ben non,
c'est
ben
ça, il y a quelque chose là-dedans que moi, le monde qui chiale contre les jeunes avec le téléphone, puis là, tu fais.
C'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a acheté, ce téléphone-là.
C'est peut-être un jeune qui l'a fait dans un autre pays.
Mais d'autres, ils n'ont pas le droit.
C'est un adulte qui l'a acheté pour y donner.
Mais d'autres, ils n'ont pas le droit d'avoir de téléphone ou d'avoir accès à Internet.
OK.
Mais leur musique, ça fait partie de leur vie. Puis ça, ça va être le tampon. En entendant que le téléphone revienne, ça va faire la job. Ouais. Sauf que souvent, ils arrivaient avec leur musique, puis ils avaient les écouteurs. Mais non, tu peux pas, là. Fait que je lui dis, apporte ton iPhone, ton iPod. On a une station de radio aussi. C'est une station de radio pirate. On ne dira pas, OK? Chut, on ne dit pas à personne. Et on diffuse sur 5 km. Chut. Et le jeune s'en va à la radio, animé. Il va faire des entrevues avec les moniteurs, les monitrices. Ils vont se faire des entrevues entre eux autres. Ils vont nous donner la météo. Ils vont nous parler de la musique qu'ils jouent. La seule chose que je vous demande, un français correct. Pas. Sujet, verbe, complément, là, de base. Ouais. Mais un français correct, en onde. On dit pas de choses. On ne blasphème pas. Puis... Écoute, ils prennent ça tellement au sérieux. Ils écrivent tout ce qu'ils vont faire comme poteau avant de... Ils viennent me le faire lire. « Si tu connais ça, peux-tu dire ça? » Oh, ça, c'est bon, ça. Et là, de temps à autre, je pars le camion pour transporter du foin ou n'importe quoi. Et là, j'arrête devant ce que la station. Et là, je lui montre que je les écoute dans le camion, que ça fonctionne pour vrai. Écoute, ils capotent. Donc ça, c'est un... Ouais, plutôt que de se battre contre quelque chose,
tu l'intègres.
On se bat avec quelque chose. La même chose avec les chevaux.
Okay.
Les chevaux, c'est fort. Bats-toi pas contre ça. Va chercher son approbation, tout le temps. Toujours avoir l'approbation du cheval.
Parce que c'est quoi, tu lui montres que tu le comprends?
Mais oui.
Fait que de base...
Je te respecte, je te comprends. Et alors, je vais faire des choses qui sont pas contre nature. Alors, mais je dois attendre. Des fois, je dois être patient pour avoir ça. Et c'est pour ça qu'on disait tantôt, la plus belle qualité à posséder avec des chevaux, c'est la patience.
Puis je me demandais quand... parce qu'en terminant, je veux savoir comment ça fonctionne quand... Qu'est-ce que ça représente avoir des chevaux dans le sens où comment ça coûte? Comment tu trouves un nouveau cheval? Comment tu.
C'est épouvantable, cette question-là. Là, t'es fou, là. Il est fou.
Non, mais c'est
parce
que j'ai aucune idée. Parce que, honnêtement, j'ai tellement aimé ça que là, j'allais m'agacer tes chevaux.
Ah oui. Écoute, ça coûte une fortune.
OK, mais c'est ça, je checkais. Là. Il y en a plusieurs, puis ouais, je savais pas trop.
Un cheval, juste un cheval, c'est pas si pire. Tu vas avoir des chevaux à partir de 2000$, tu vas avoir des chevaux corrects. Puis avoir un cheval de race avec les papiers puis tout ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire?
Mais c'est
non.
Quoi un cheval correct ou pas correct? C'est ça que je me demande tout le
temps. C'est comme les chiens.
C'est ça.
Les gens veulent avoir un cheval qui descend d'une lignée de... Des fois, tu vas aller chercher des chevaux qui sont plus performants. Qu'est-ce que tu veux faire? De la course dans les
hippodromes.
Ouais, les hippodromes ou alors si tu veux aller te promener à cheval? Ouais. Ben, je vais aller me promener. Ben,
ça prend un être vivant, quand même.
Un être vivant à quatre pattes qui est capable de te supporter sur son dos.
Ouais.
On part de là. Ah, c'est sûr que tu dis, ouais, ben, je veux un paint horse ou je veux un cheval canadien. Ou je veux... Là, on rentre dans des... C'est comme aller magasiner une voiture à quelque part.
Ouais.
À la limite, c'est comme ça. Sauf qu'après, tu mets 12 pick-up Chevrolet en ligne, tu vas tous les essayer, les 12, ils vont être pareils. Ou à peu près. Les chevaux canadiens, même si on en met 12, il n'y en a pas un qui va avoir exactement le même tempérament. Là, on rentre dans des êtres vivants. Et là, on doit aller voir, les essayer, apprendre à les connaître avant de les acheter, idéalement, si tu peux le faire.
OK.
Il faut que tu sois prête pour avoir des chevaux. Parce que tu deviens un peu prisonnier de ton rêve aussi.
Ouais.
Parce que, tu sais, des fois, tu as juste un chien, tu veux partir en vacances, tu cherches quelqu'un pour garder ton chien. Si tu as 10, 12 chevaux, là, ça te prend quelqu'un qui va venir s'en occuper. Mais là, c'est pas un chien. C'est 10, 12 chevaux. Il faut que tu sois installé et ça prend quelqu'un qui va venir s'en occuper qui connaît ça.
C'est ce qu'il fait. Là.
Parce qu'il va regarder un cheval qui va dire « Ah, lui, il est en train de faire une colique. » C'est quoi ça? Ben, non, il est couché à la tête. Non. Il est en train de faire une colique. Un autre... non, ce cheval-là, qui va être capable de détecter des signes vitaux.
C'est quoi le genre de problème que tu peux vivre?
Ben, les coliques, c'est probablement un des problèmes qui majeur qui peut être fatal pour les chevaux. C'est un peu comme les intestins qui font des nœuds, si tu veux, puis que ça va finir par éclater, puis ils vont en mourir.
Okay.
Fait que donc, tu vas voir ton cheval, il est couché par terre, il se regarde les flancs. Souvent, il va même se frapper de là parce que Je vais te dire, qu'est-ce qui ressemble le plus à une colique chez l'être humain? Une pierre au rein.
OK.
Parce que je l'ai vécu. Et ma blonde a dit, t'avais l'air d'un étalon qui faisait une colique.
Oh.
J'ai aimé l'étalon.
C'est ça que j'allais dire, elle a choisi l'étalon.
L'étalon.
Elle aurait pu dire, t'as l'air d'un colique, poney qui a mal au ventre.
Mais... c'est un poney qui a mal au ventre.
T'as l'air d'un poney constipé, c'est moins glorieux que de l'air d'un étalon.
Bon, elle a peut-être pas dit étalon, mais il me semble que ça pensait mieux comme
ça. Je pense qu'elle a dit étalon. Oh, oui. Dans tes souvenirs, là.
Mais ça, c'est un des problèmes qui revient. Après ça, les boiteries. Puis après, on rentre dans les toutes sortes de problèmes de santé. Les chevaux ont des santé quand même assez fragiles au niveau des poumons.
Okay.
Ça prend du foin de qualité. Faut être capable de reconnaître ça aussi. Un foin qui est de qualité versus un foin qui est poussiéreux.
Comment tu... C'est ça.
C'est ça. Faut que tu le voir. Faut que tu le sentes. Faut que tu joues dedans un peu. Puis faut que tu regardes c'est quoi qui compte. Quoi qu'il compose ta balle de foin, tu sais, là.
Toi, tu vas le regarder, tu vas dire qu'il faut qu'il soit comment...
Tu vas voir qu'il y a du millet dedans, qu'il y a du trèfle, qu'il y a de la luzerne. Tu sais, les composantes, les graminées qu'il y a dedans, faut que tu sois capable de reconnaître ça un peu, ouais. Habituellement, tu vas faire affaire avec des fournisseurs qui, eux, sont des gens hyper compétents là-dedans, qui vont dire, ouais, ça, c'est pour des chevaux. Ça va être plus pour les vaches parce qu'il est trop riche en luzerne ou trop riche en trèfle, en tout cas.
J'ai entendu dire que tu peux avoir du mauvais sable aussi, avec des bouts de verre dedans. Tu peux te faire avoir, puis ça fait que tu peux étendre du sable, puis il y a des petits morceaux de verre dedans, puis
c'est d'autres problèmes, ouais.
Ça t'est-tu déjà arrivé, ça?
C'est-tu
fréquent? C'est-tu quelque chose qui est...
C'est pas quelque chose qui est fréquent, mais c'est déjà arrivé.
Okay.
C'est déjà arrivé.
Puis ça, y a-tu des solutions? Tu grattes le plus possible.
Idéalement, si t'en as beaucoup, je te dirais, t'enlèves la couche du dessus puis tu remets d'autres sortes par-dessus.
T'as pas le choix, là.
Okay. Il n'y a pas plein rien que ça à faire.
Puis, as-tu un vétérinaire qui vient régulièrement?
Tout à fait. Nous autres, on a une vétérinaire, c'est la même depuis des années puis des années. Et puis... écoute, quand elle a commencé, elle étudiait pour devenir vétérinaire. Elle était venue ici en stage comme monitrice. Puis elle nous dit ça, elle dit, j'étudie pour être vétérinaire. Je dis, là, va-t'en vétérinaire pour chevaux parce qu'on va avoir besoin de toi plus tard. Mais aujourd'hui, c'est notre vétérinaire.
J'adore ça.
Écoute, il y a plein de trucs comme ça qui nous est arrivé. Non, il n'y a pas de hasard. Ah. La vie fait en sorte de t'amener les bonnes affaires au bon moment, puis force rien. Tu sais, on entendait souvent... Il y a plusieurs années, là, mettons une couple de générations en arrière, les portes d'envie, il faut que tu saches comment les défoncer. Non. Moi, je pense pas.
Faut que tu apprennes à accepter celles qui sont barrées.
Si elle est fermée, puis qu'elle est barrée, puis qu'elle n'ouvre pas, c'est parce que tu n'as pas les bonnes clés, tout simplement. Change de porte, trouve les clés, mais défonce pas. Ça ne donne rien. Si tu la défonces, c'est une infraction.
Okay.
À la vie, là. Tu défonces une porte, c'est parce qu'elle n'était pas faite pour toi. Si elle est faite pour toi, elle va s'ouvrir. Moi, l'écurie, telle que tu la vois là, quand j'ai commencé à bâtir, tu sais où ce qu'elle était?
Non.
À 100 pieds plus loin par là.
OK, t'as vraiment changé ça de bord, là.
Ouais. Parce que, au moment où j'ai commencé... Mais moi, quand je la voyais dans mes rêves, je la voyais quand je rentrais du chemin, je la voyais ici. Sauf que la montagne s'en venait là. Et puis, je pouvais pas me tasser plus. Il aurait fallu faire de l'excavation et tout ça. Fait que j'ai dit, moi, à faire là-bas. Fait que j'ai commencé à construire là-bas. Fait que là, je commence à défricher et tout ça. L'inspecteur municipal passe. Un gars que je connais bien, un chum. Il dit, ah, Michel, j'ai oublié de te dire, il faut que tu sois à... Je me souviens plus, je pense que c'était 150 pieds du voisin le plus proche. Fait qu'il a fallu que je recule pour la mettre là où ce que je voulais, là où ce que je la voyais. Fait qu'il a fallu excaver la montagne pour pouvoir se placer ici.
Mais t'as pas eu le choix de le faire, c'est ça?
Je dis, elle est là où ce qu'elle était supposée être. Ça veut dire, quand tu visualises des choses, les choses les plus vraies que t'as dans ton histoire, c'est des choses que t'as déjà vues. Tu l'avais pensé, tu l'avais prévu, ça. Tu en as déjà parlé, c'est arrivé. Okay. Tu dis, ah, ben oui, mais il n'y a pas de hasard. T'as travaillé là-dessus. Il y a quelque part, il y a quelqu'un, tu sais... Ça, on rentre dans les autres. On y retourne.
Moi, j'ai du coup de plus rationnel pour la même raison. Moi, je le vois comme si, vu que tu le vois puis tu le visualises, t'es juste ouvert à le voir quand ça va te passer d'en face. Tu le reconnais parce que tu sais ce que tu cherches. T'sais. Fait que ça enlève un peu le côté ésotérique. Ça donne un petit peu plus de rationnel là-dedans, ce qui, moi, m'aide à assimiler ces concepts-là. Mais j'étais à la même place que toi. Je comprends très bien.
Tu sais, tantôt, je te parlais quand j'ai rencontré Patrick Normand la première fois dans un parc, pour les gens qui nous ont suivis depuis le début. Là.
Mm-hmm.
Bon, je t'ai dit que j'étais passé par son technicien André. Je me rappelle de son nom parce que je lui ai dit, je vais t'en parler plus tard. on rentre dans l'ésotérique. Il y a un de mes amis qui dit, écoute, il y a une de mes chums, et là, elle serait fâchée que je ne me souvienne pas de son nom, elle fait une émission sur Canal Vie ou Canal, je ne sais pas trop quoi. Son nom ne me vient pas. Ils font justement ces... Et si c'était vrai?
OK.
C'est des gens qui vont rencontrer des médiums.
Ouais.
Mais ils ont besoin de monde qui capoteront pas devant une caméra. Ouais. Du monde qui va avoir un certain débit.
Ils sont capables de gérer une caméra puis des révélations sur eux-mêmes.
Ça tente-tu d'aller rencontrer le médium? Ça te coûte rien. La seule chose, elle dit, tu vas être filmé et tu vas passer à la télé. Ouais. C'est correct, j'y vais. Ça arrive à fin août. Fait que finalement, je m'en vais là. Fait que là, je parle avec la médium, blablabla, blablabla, et j'en arrive tout de suite à parler. Elle me dit tout de suite en rentrant, ça a pris peut-être 30 secondes. Elle dit, vous êtes du domaine artistique. Ouais. Blablabla, 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 et j'en arrive à parler des chansons, Patrick Normand et tout ça. Mm-hmm. Puis, arrive le moment où on finit l'entrevue avec la médium. On dit, OK, coupé, on va changer les caméras de place, puis on va faire l'entrevue maintenant avec la journaliste, qui, elle, la journaliste, va te poser des questions sur comment tu t'es senti pendant ce temps-là. Puis, pas de problème. Mais ils ont dit, le temps qu'on fait le changement de caméra, puis qu'il faisait quand même assez chaud, fin août, il faisait quand même chaud. Tu vas aller dehors, pas de problème. Fait que je m'en vais de voir. Et il y a un gars qui s'en vient me parler, un des technicien prise de son. Il dit... ton histoire avec Patrick Normand, d'être allé le rencontrer à Saint-Hyacinthe, là, comment c'est arrivé? Ben, je dis, je vais aller rencontrer le technicien. Puis je dis, j'avais. Puis c'est lui qui m'avait emmené à Patrick Normand. Il s'appelait comment? Je dis, André.
C'est moi.
C'est moi. Je le regarde. Tabarnak! Ben oui, c'est toi. Puis on saute des bras. Mais tout le monde de l'équipe, c'est pas ce qui se passe.
Ouais.
Ils sont virés. Ben non, c'est pas ça.
Ben quand même, là, c'était là, ça, ce serait une bonne nouvelle.
Ben, ouais, c'est ça a été quand même pareil. C'était le destin.
Il fallait qu'il se trouve là.
Mais là, il a dit, écoute, il se passe des affaires ici. Là. C'est ça. Cool, il n'y a pas de hasard, mais ça revenait. Puis il dit, ton histoire, là, dit, j'y ai cru parce que j'y étais. il n'y a pas de hasard.
Ben honnêtement, je trouve que ça conclut merveilleusement bien l'épisode. On dirait que tout ça est une série de happy accidents, là, de toutes des... Justement, toutes des portes qui se sont ouvertes naturellement, que tu es juste rentré dedans, puis ça fait que...
On n'a rien forcé.
Ouais.
Ça s'est fait. Ça s'est fait, puis on a juste vécu ce qu'il y avait à vivre au moment présent. Ouais.
Mais c'est pour vrai, merci beaucoup. Merci pour ton amitié au travers des années,
écoute,
Michel.
C'est vraiment cool.
C'est un réel plaisir. Vraiment. Ça fait longtemps que je voulais faire cet épisode-là, juste pour juste te mettre en valeur ce que tu fais, puis parce que tu sais que je t'aime beaucoup. Puis on n'avait jamais vraiment pris le temps de jaser.
Apprendre à se connaître.
Oui, un peu plus. Puis j'espère que les gens ont appris à te connaître aussi.
J'espère qu'ils vont apprécier ça. Puis s'ils ne connaissent pas le monde des chevaux,
allez-y.
Ou le monde des comics.
Qu'est-ce qu'on plug en terminant?
Ben, les spectacles qu'on a ici,
les pages Facebook, mettons, pour suivre la programmation, c'est quoi?
Les gens peuvent venir nous rejoindre sur Ranch au Bois Rond.
OK.
RanchauBoisRond.com pour le site web.
Parfait.
Théâtre du Ranch au Bois Rond pour les spectacles.
Ça marche.
Les deux sites web. On a aussi des pages Facebook pour les deux, puis on est aussi sur Instagram.
Puis il y a des spectacles ici à l'année?
À l'année. Parfait. À l'année.
Salle sans alcool.
Salle 100% sans alcool.
Très cool. Fait que les camps d'équitation, ça recommence quand, ça?
Écoute, les inscriptions vont se faire à partir de la fin octobre. On commence les inscriptions déjà.
OK.
Fait que on est reparti.
Jusqu'à quand? Tu peux.
Écoute, les gens vont
peut-être sortir
jusqu'à
le mois de décembre, je pense.
Ouais, okay. Ben, les gens vont s'inscrire, aller jusqu'au début juin. Là,
OK.
Mais.
Donc les camps reprennent. Au mois de juillet?
C'est fin juin, début juillet, ouais.
OK, cool.
Fait que les gens, souvent, on en a des gens de dernière minute, là, tu sais, mais habituellement, je te dirais que les gens, février, mars, là, c'est pas mal booké. Il y a des semaines qui sont déjà remplies.
OK, parfait.
Pour pas avoir de mauvaise surprise.
C'est une bonne nouvelle. De toute façon, le téléphone n'arrête pas de sonner. Fait que...
oui,
parce que t'es pas dans le trouble, j'aime
écoute,
ça.
C'est vraiment incroyable.
Merci beaucoup pour ça, j'ai adoré ça.
C'est vraiment cool. Merci à vous autres. Yes. Hey, merci Fred. Belle job. Ouais,
merci. Fred Daou, production 37. Merci beaucoup. Yay! Je suis content. Maintenant, je vais aller avoir peur des araignées. Partout.